Mesdames, Messieurs, Dames en Heren, bonsoir, goedenavond aan iedereen. Ik wil u eerst vragen als er Nederlandstaligers die in de zaal aanwezig zijn. Non, on va tout faire dans les deux langues s'il n'y a pas de Néerlandophone. Donc, notre bourgmestre nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard en cours de soirée. Nous allons essayer de limiter les différentes interventions globalement à une heure d'exposé, de telle manière qu'on puisse avoir après un petit peu de temps pour le débat, pour répondre à vos questions. Alors, la politique de l'eau, vous savez que c'est un enjeu essentiel, et nous avons voulu au niveau de la commune, au niveau du collège, organiser cette soirée d'information avec deux ou trois des acteurs principaux en matière de politique de l'eau. Tout d'abord, les intercommunales Vivacois et Hydrobru, et ensuite la commune. L'intercommunale Hydrobru, qui est l'intercommunale bruxelloise de distribution de l'eau et de l'assainissement, est représentée par son président, M. Marc Troigjoly, qui est ici à ma gauche, qui est également conseiller communal ici à Uccle, et par M. Bourdeau, qui est le directeur général de l'intercommunale. L'intercommunale a, je dirais, une double mission, enfin vous expliquerons ça de manière plus précise que moi. D'une part, c'est la distribution de l'eau potable, hein, l'eau que nous buvons tous quand nous ouvrons notre robinet, et d'autre part, c'est la gestion de nos égouts, ce qu'on appelle la politique d'assainissement, étant donné que toutes les communes bruxelloises sont déjà depuis un certain nombre d'années confiées à l'intercommunal la gestion de leur réseau d'égouts. Puis nous avons M. Brouf, qui est ingénieur à Vivacois, qui est aussi l'intercommunal, qui est présent là, ici, tout à gauche. Vivacois, son ancien nom, c'était la compagnie intercommunale bruxelloise de l'eau, donc ça a toujours fait la production de l'eau, que ce soit par des captages à Taillefer ou ailleurs, ou que ce soit par le traitement de l'eau de la Meuse. Mais Vivacois est aussi souvent l'outil technique d'Hydrobru, vu que Hydrobru se retourne en général vers Vivacois pour faire des travaux de pose, de canalisation, que ce soit d'eau potable ou d'égout, ou pour construire les bassins d'orage qu'Hydrobru finance. Et puis, il y a la commune, qui garde aussi un certain nombre de compétences importantes en matière de politique de l'eau, vu que notamment tout ce qui est la gestion des avaloirs dépend toujours de la commune, que ce soit décider, là on construit de nouveaux avaloirs, ou tout simplement réparer ceux qui sont abîmés, ou désobstruer, ça c'est le service d'ailleurs de la propreté qui le fait à Uccle, ceux qui sont éventuellement bouchés. La commune également joue un rôle important de conseil, de visite chez les habitants, notamment encore cet après-midi avec notre directeur général M. Parmentier, j'ai rencontré des habitants qui avaient des problèmes particuliers au coin de l'avenue Gaumont et de l'avenue de la Petite Espinette, et donc on joue très souvent un rôle de conseil et d'appui à nos concitoyens confrontés à des problèmes, notamment d'inondation ou autres, en liaison avec l'eau. Nous menons une série d'études, il vous en sera parlé plus avant dans la soirée, sur des sujets extrêmement divers en liaison avec la politique de l'eau. Et la commune est toujours aussi responsable de la gestion de deux cours d'eau à Uccle-Luckenbeek d'une part, donc, qui est un ruisseau voûté, enfin, qui est en dessous de l'avenue de Frey et de l'avenue Bruckmann, et d'autre part le Gueuleisbeek dans la vallée de Saint-Jacques. Vous serez exposé aussi tantôt à un certain nombre d'actions que nous avons déjà entreprises ou que nous allons entreprendre sur ce ruisseau. Et pour cela, je serai aidé par Mme Dewey, qui est ici, juste à côté de moi, qui travaille au niveau du service de l'environnement de la commune. Le rôle de la commune aussi, c'est de délivrer des permis d'urbanisme. Et donc là aussi, nous pouvons influencer un certain nombre de choses lorsque nous traitons des permis d'urbanisme par les conditions que nous mettons, que ce soit un bassin d'orage individuel, que ce soit parfois en lagunage, que ce soit pour favoriser l'infiltration. Puis, il y a ce que la commune peut faire aussi pour le parc immobilier existant en matière de primes. Et donc, il y avait déjà depuis quelques années, notamment des primes pour encourager les Uccleois à se doter de citernes d'eau de pluie, ou bien des primes également pour les toitures vertes. On vient tout récemment au conseil communal d'adopter également des primes pour les parois vertes ou pour favoriser l'infiltration, vu que c'est aussi à côté de ce qui vous sera exposé tantôt en matière de bassin et d'orage, quelque chose que nous essayons d'encourager dans la commune, c'est lorsque c'est possible, c'est l'infiltration de l'eau. Alors, comment va être structurée la soirée? Hugues, c'est trois bassins hydrologiques, donc trois vallées, la vallée de Saint-Jean, la vallée de Lückelbeek, la vallée de Verwinkelbeek. Et donc, on va commencer d'abord par la vallée de Saint-Jean, puis on passera par la vallée de Lückelbeek, puis on terminera par la vallée de Verwinkelbeek. Et pour chacune de ces vallées, d'abord, M. Brouwer va un petit peu vous exposer effectivement ce que Vivacqua, ce que Hydrobru entreprennent et comptent entreprendre, et quels sont les plannings notamment des travaux prévus. Et puis Mme Dewey et moi-même compléterons par les actions au niveau de la commune. Mais avant de lui passer la parole, je vais tout d'abord passer la parole à mon collègue M. Marc-Troix de Joly, qui représente donc ici l'intercommunal Hydrobru, qui va financer donc en une grande partie des travaux qui vont avoir lieu ces prochaines années dans notre commune.
Merci Monsieur Léchevin, merci Marc. Je salue Bernard Rayette qui vient de rentrer, qui est également administrateur représentant notre commune auprès du conseil d'administration d'Hydrobru. On m'a demandé de faire un petit laïus, ça veut dire que c'est vraiment très très court, pour vous présenter en fait ce qu'est Hydrobru. L'exposé principal, éventuellement bien sûr avec des interventions de notre directeur général Yves Bourdeau, mais ce sera M. Olivier Brouwer qui est responsable du bureau d'études des réseaux auprès de Vivacqua, qui va en fait vous faire une explication, je pense, très didactique, car j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre, notamment sur le sujet de Hucle, mais également sur d'autres communes. Et vous verrez que c'est assez passionnant parce que c'est toujours agréable quand c'est un niveau technique élevé qu'on comprenne ce qui est exposé. Donc en deux mots, comme l'a dit M. Coles, Hydrobru en fait c'est une intercommunale publique qui est chargée par les 19 communes de tout ce qui était distribution d'eau et depuis peu de tout ce qui est également l'assainissement. Donc, depuis 1989, ça fait un peu plus de 20 ans qu'Hydrobru, à l'époque IBDE, a été créé. La distribution ne pose pas de problème bien particulier. Il y a de temps en temps des incidents, il y en a partout, mais ce n'est pas des problèmes vraiment difficiles à gérer. Par contre, en matière d'assainissement, nous avons là hérité d'une mission extrêmement délicate, extrêmement complexe, dans la mesure où, en 2001, l'IBRA, donc l'intercommunale bruxelloise d'assainissement, a été créée pour examiner un petit peu la carte, la cartographie, en fait, de ce qui existait au niveau de l'infrastructure des égouts dans les différentes communes. Et en 2006, c'est l'IBDE, donc aujourd'hui, Hydrobru, qui a repris cette mission. Donc, vous voyez que c'est déjà assez récent. Le problème étant que les égouts sont soit vétustes, soit parfois mal entretenus, mais bon, il y a tout de même une partie du réseau qui est en bon état, donc on établit plus ou moins 500 km du réseau qui sont en difficulté par rapport à un réseau de 1900 km, et donc à peu près 3 000 € du mètre courant, le calcul est assez vite fait, on est à 1,5 milliard d'euros pour la réhabilitation de ces 500 km. Alors, cette mission a été analysée, bien évidemment, par les responsables d'Hydrobru, c'est-à-dire par vos administrateurs, mais également, bien sûr, par le personnel qualifié. Et dans ce personnel qualifié se retrouve, de façon extrêmement importante, Vivacqua. Vivacqua, c'est également une intercommunale publique, mais c'est une intercommunale qui, au départ, capte l'eau et la vend. L'Avant a des intercommunales de distribution, notamment en Wallonie, notamment en Flandre, partiellement, mais la totalité, donc à 100%, sur la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, nous sommes, en fait, en tant que région bruxelloise, nous représentons 50% de son chiffre d'affaires en vente d'eau. Et tous les travaux qui sont réalisés, donc je dirais tout ce qui est opérationnel, entreprise générale, représente environ 70% de son chiffre d'affaires. Donc, le rôle d'Hydrobru, c'est de gérer ses missions, mais l'opérationnel, celui que vous voyez dans la rue, les camionnettes que vous voyez dans la rue, vous verrez toujours Vivacqua, Hydrobru, malheureusement, vous le voyez sur votre facture, c'est moins agréable, mais nous avons tout de même un rôle important de gestion et de contrôle à réaliser. Et donc, c'est dans cette optique que nous nous sommes attelés à chercher les moyens financiers qui sont nécessaires à ces missions, et donc notamment le fameux 1,5 milliard dont je vous ai parlé il y a un instant. Pour ce faire, nous nous sommes adressés à la Banque européenne d'investissement, auprès de laquelle, en décembre 2010, nous avons pu signer un accord qui porte sur une durée de 20 ans, 4 tranches de 5 ans, sur un total de 750 millions d'euros, donc la moitié, 50% de ce fameux 1,5 milliard, l'autre moitié étant à financer auprès des banques classiques, des banques commerciales, ce qui ne devrait donc pas poser de problème. Alors pourquoi 20 ans? Je crois que c'est peut-être important à dire aussi, mais d'une part parce que il est évident que même en termes de moyens financiers, cet argent n'est pas disponible directement, mais surtout parce que sur le plan non seulement de l'investissement qui est nécessaire, mais en moyens humains également, il faut trouver le personnel, le former et le maintenir. Et ceci étant, c'est donc un aspect positif en termes d'occupation de travailleurs. Et d'autre part, il y a également les problèmes qui sont soulevés par la gestion de la mobilité, puisque ce sont des travaux qui, une partie se fait en sous-sol, mais une partie tout de même par l'ouverture des voiries. Et malheureusement, on n'a rien sans rien, donc ça provoque des problèmes, je dirais un peu les dégâts collatéraux de ces travaux qui vont être effectués, qui ont commencé déjà en 2011 et qui vont donc perdurer pendant une vingtaine d'années. Alors je vous dis une vingtaine d'années pourquoi? Parce qu'on parle de 500 km de réhabilitation, mais ensuite ça va être comme le réseau de distribution, ça veut dire qu'il va falloir continuer à entretenir le restant du réseau. Si on a réhabilité 500 km sur 1900 km, eh bien il faudra évidemment que les autres kilomètres soient également entretenus. Et donc finalement, on est parti dans un travail qui, après, sera organisé, sera mieux réparti, mais devra être poursuivi. Et donc il faut évidemment avoir une vision à long terme. C'est dans ce cadre de cette mission et de son élargissement qu'on retrouve également Hydrobru dans un problème malheureusement fort d'actualité ces dernières années, qui sont toute la régulation des pluies diluviennes que nous avons vu se développer ces dernières années, plus particulièrement dans les périodes d'été, notamment au mois d'août dernier, et il y a 2 ans également, et donc de trouver, avec d'autres structures qui existent à cet effet, notamment bien sûr avec la commune, mais également avec la SBGE qui est au niveau régional, qui s'occupe de cela, d'installer des bassins d'orage. Et bassins d'orage ne font pas des miracles, nous avons déjà une série de bassins d'orage qui sont installés, mais nous allons encore en installer, sont prévus, certains même à relativement court terme. Cela va vous être expliqué dans un instant par M. Olivier Brousse, et vous verrez que notamment, je terminerai par cela, entre 2010 et 2015, vous avez à peu près 80 millions d'euros qui seront investis sur la commune d'Uccle uniquement, ce qui représente tout de même donc une partie importante du budget sur l'ensemble du territoire de la région. Voilà, je pense avoir fait une présentation qui vous situe un petit peu où se trouve Hydrobru, où se trouve Vivacqua. Et je pense, M. Cause, que nous pouvons peut-être donner la parole à M. Brousse, à moins que... Oui.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Donc, mon nom est Olivier Brousse, je suis ingénieur chez Vivacqua. Et donc, je vais vous donner une vision, ou du moins, je vais essayer de vous donner une vision globale sur ce qui va se passer les 5 à 10 prochaines années chez vous. Sur Uccle, c'est finalement une commune où vous avez 3 vallées bien distinctes, avec leurs problèmes bien spécifiques qu'il va falloir traiter. Donc quand on dit 3 vallées, ben effectivement, 3 vallées, il y a la vallée de l'Uccle-Bec qui est la vallée la plus au nord de la commune, la vallée du Jolets-Bec et la vallée du Verwinkel-Bec. Donc pour l'Uccle-Bec, on se situe dans les environs de Defray, Bruckmann, rue de Stahl. Pour le Jolets-Bec, c'est essentiellement la vallée de l'avenue de Saint-Jean. Et pour le Verwinkel-Bec, qui est un cas tout à fait spécifique. On est dans rue de Perques, frontière avec, par exemple, Rue de Saint-Genèse. Donc ce sont vraiment trois vallées bien distinctes dans lesquelles je vais essayer d'être le plus clair possible sur ce qui nous attend dans les années à venir. Donc je propose de vous faire un plan de présentation suivant. Je vais d'abord parler en théorie de la simulation hydraulique, parce que vous verrez que pour parler de problèmes d'inondation, pour parler de pose d'égout, il y a rien à faire, il faut un petit peu parler d'hydraulique. Mais je vais essayer d'être assez didactique, parce que c'est une matière un peu rébarbative de prime abord. Puis après, pour essayer de vous mettre en confiance avec la théorie, je vais vous parler de choses que nous avons déjà résolues grâce à la théorie que je vais exposer. Et puis je vais traiter des trois vallées plus en détail. Donc, qui dit simulation hydraulique dit certains principes. Donc, qu'allons-nous essayer de faire? On va essayer de modéliser les aléas météo et de voir comment essayer d'éviter que vous ne souffriez d'inondation. On va également, lorsqu'il va falloir parler de nouvelles poses d'égout, prévoir les diamètres suffisants et des infrastructures suffisantes pour que vous n'ayez pas de problème d'inondation. Donc, pour réaliser un modèle, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la pluie. Il faut qu'on s'entende sur la notion de pluie, de quoi parle-t-on? Si on dimensionne la dalle de cette salle, on va essayer de se fixer des hypothèses de travail, on va se dire, on va dimensionner cette dalle à 500 km², pour une pluie c'est la même chose, on va essayer de se fixer des hypothèses de travail. Il y a également une notion de surface imperméable, fort importante et évidente, puisque s'il pleut dans une dune, on ne va pas avoir exactement les mêmes effets que s'il pleut sur une route asphaltée. Il est évident que les modélisations devront tenir compte des caractéristiques géométriques du réseau. Un élément fort important, et une des cartes vous l'a déjà montré en région écloise, c'est qu'il va falloir tenir compte également des éléments parasitaires. Donc les premières cartes que je vous ai montrées, c'est en fait une carte de Google Maps, et sur laquelle on est venu caler les anciennes cartes de Ferraris, 18e siècle, qui faisaient état des cours d'eau qu'il y avait dans nos régions, et on voit effectivement, et on le verra encore, que ces cours d'eau étaient bien présents, sont toujours là, mais moins visibles. Donc cette notion d'élément parasitaire est fort importante aussi dans la prise en compte des hypothèses dans les modèles que l'on va essayer de mettre au point. Et puis le dernier élément qui intervient moins en termes de résolution de problèmes d'inondation, mais plus en termes d'exploitation des ouvrages que l'on va devoir créer, c'est le nombre d'habitants, autrement dit le débit de temps sec. Donc, nous avons essentiellement des réseaux unitaires, donc ils sont dimensionnés sur l'aléa météo. La consommation humaine intervient que pour quelques pourcents dans un égout. Mais seulement, vous verrez comment on en tient compte dans la mise au point des infrastructures de stockage et de tamponnage d'eau. Parlons d'abord de la pluie. Donc on se base sur des statistiques IRM, donc l'Institut Royal Météorologique. Alors je vais faire très simple, une pluie finalement, il y a deux paramètres. Il y a un paramètre d'occurrence, c'est-à-dire on va se protéger contre une pluie décennale, trentenaire, bref, on va choisir une occurrence, autrement dit si on choisit de se protéger contre une pluie d'occurrence décennale, bien on va avoir une chance sur 10 d'avoir ce type de pluie cette année-ci, ou de la rencontrer une fois tous les 10 ans. Et un autre paramètre important dans la pluie que l'on retrouve dans ces tables statistiques IRM qui sont quand même assez fiables puisqu'elles ont quand même plus d'une centaine d'années de recul, c'est la durée de la pluie. Il est évident que vous pouvez avoir une pluie décennale de 5 minutes, une pluie décennale de 8 minutes, une pluie décennale de 240 minutes. Bref, voilà les deux paramètres qu'il va falloir circonscrire, l'occurrence de la pluie et la durée. En termes d'occurrence, il est d'usage de se protéger contre une pluie décennale. En termes de durée, ça dépend du bassin versant auquel on a affaire. Si on va dimensionner un petit lotissement, on ne va pas prendre une pluie de 4 heures. Si on veut protéger à l'échelle publique un bassin versant en ville des trois vallées qu'on a cité, on va prendre des pluies de 4 heures. Donc on va prendre des orages qui durent 4 heures pour une occurrence de 10 ans. Les tables statistiques renseignent le nombre de millimètres d'eau qui tombe. Donc, par exemple, si vous prenez une pluie de 5 minutes, occurrence décennale, vous allez avoir 9,6 mm qui vont tomber par mètre carré. Donc, on va, dans cet arbre, prendre décennale 240 minutes et on va voir le nombre de millimètres qui sont tombés. Mais ce serait trop simple, parce que si on prend uniquement ce résultat, on va répartir ces millimètres tombés sur 240 minutes. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde voit que quand il y a un orage, ben, il pleut un petit peu, puis on voit que ça commence à aller de mal en pis, puis il y a vraiment un grand pic. Donc, il faut essayer de tenir compte de cette répartition temporelle de la pluie, et c'est ce que nous faisons. Nous allons aller dans les tables statistiques IRM et rechercher pour une pluie de 10 minutes ce qui tombe tous les 10 ans. Et puis finalement, on va faire une courbe enveloppe sur 240 minutes de cet aléa pluie pour avoir une pluie vraiment méchante qui va d'abord commencer à remplir les réseaux, et puis l'orage que l'on connaît, et puis l'accalmie qui suit. Donc, en faisant cela, on construit une pluie, c'est-à-dire on ne dimensionne pas par rapport à une pluie réelle, on le fera par après, mais pour commencer à dimensionner, on construit une pluie qui est la courbe enveloppe de toutes les pluies décennales de durée différente jusqu'à 240 minutes, soit 4 heures. Inversement, quand vous souffrez d'inondation, que vous téléphonez en disant « je suis inondé, ma cave est inondée, comment est-ce possible, qu'avez-vous fait pour qu'on en arrive là ?» On doit pouvoir trouver sur une pluie réelle, cette fois-ci, l'occurrence de ce qui nous est tombé dessus. Si je dimensionne un réseau pour une occurrence de 10 ans et qu'on a une pluie qui intervient tous les 50 ans, le bassin d'orage a été dimensionné pour une occurrence de 10 ans, pas pour 50 ans. Donc on doit pouvoir, inversement, non plus partir des tables statistiques, mais de la réalité. C'est ce que vous voyez avec les petits carrés rouges, là, ici. C'est une pluie qui a été enregistrée, une pluie réelle. On doit pouvoir, avec des filtres de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à 240 minutes, trouver à quelle occurrence correspond la pluie qui s'est abattue sur vous. Donc voilà une petite explication de ce qu'est une pluie et comment on en tient compte dans les modèles. À petite pluie, parfois des grands effets. Donc, je reprends l'exemple précédemment pris. C'est une pluie enregistrée ici. Cette fois-ci, c'est en noir, cette pluie en rouge. Donc, c'est ce que vous avez vu entouré ici. Donc, on a quelques millimètres de hauteur de pluie qui s'abattent sur un bassin versant de plusieurs hectares. Par contre, les effets dans les égouts peuvent être calamiteux. Donc, on va placer des capteurs dans les égouts pour se rendre compte de la montée de l'eau réelle suite à une pluie réelle dans un égout. Ça va nous permettre de calibrer les modèles. On voit ici, c'est dans la vallée de la Woluwe, ici, donc cette courbe-ci, c'est en face du Woluwe Shopping Center à Woluwe-Saint-Lambert. Vous voyez qu'on a, à des pluies de quelques millimètres, des effets de plus de 5 mètres de haut dans les réseaux d'égouts. Donc évidemment, c'est les tacs qui s'en vont et de l'eau sur la voirie. Donc, toutes ces courbes sont en fait des réponses de capteurs que l'on a placés dans différents endroits dans le réseau pour se rendre compte si le modèle que l'on a mis au point est bien le reflet de la réalité par rapport à la pluie qui est tombée. Autre paramètre que la pluie, eh bien tout simplement l'imperméabilisation. Donc au plus on imperméabilise, au plus l'effet de la pluie sera important dans le réseau d'égouts. Alors, il y a à peu près 5-6 ans, la région bruxelloise a commandé une étude pour se rendre compte de l'évolution de cette imperméabilisation en région bruxelloise. Et donc, vous voyez ici, pour les différentes communes, dont Uccle, l'évolution de ce paramètre d'imperméabilisation. Donc, en 1955, il y avait un paramètre moyen de 19% d'imperméabilisation. Et en 2006, on est à 32% de paramètre moyen de pourcentage d'imperméabilisation. Il est évident qu'avec des réseaux existants, et une imperméabilisation qui, effectivement, devient de plus en plus importante, il est évident qu'il va falloir résoudre des problèmes. Alors, parlons maintenant du réseau et comment on tient compte du réseau dans les modèles. Il est évident aussi que c'est lié aux capacités informatiques des ordinateurs. Il y a 20 ans, on n'avait pas les puissances de calcul que l'on avait maintenant. Donc, c'est intimement lié à l'informatique. Et ce que je peux vraiment vous assurer, et je vous montrerai par la suite, c'est que maintenant on approche vraiment la réalité. Comme l'a dit M. Martrois de Joly, Libra l'intercommunale bruxelloise d'assainissement, au début de sa création, a mis énormément de temps à faire un relevé précis dans un système d'information géographique des nœuds, des tacs d'égout, des conduits, et donc on a bâti une cartographie assez fiable. On va en fait transporter ces informations qui sont contenues dans des bases de données directement dans les modèles de calcul. Par contre, ce que l'on faisait avant, c'est ce que l'on va montrer sur le prochain slide, ce que l'on faisait avant, c'est qu'on n'avait pas cette précision, et donc pour approcher le réseau, on créait un réseau virtuel, c'est-à-dire qu'une portion de ring, c'était un numéro affublé d'une certaine superficie imperméable, et entre la portion du ring et la prochaine imperméabilisation que l'on voulait prendre en compte, on traçait une conduite virtuelle qui était plus ou moins le reflet de la réalité. On en est loin, c'était il y a une vingtaine d'années. Ces modèles permettaient de dimensionner des bassins de rage, mais ne permettaient pas de dire avec une relative précision le niveau de l'eau que l'on allait atteindre dans les égouts. On savait qu'il fallait mettre 40 000 mètres cubes de bassins de rage au croisement de telle rue et de telle rue, mais on ne savait pas très bien comment se comportait le réseau quant à la ligne d'eau. Or, c'est ça qui vous intéresse, puisque c'est avec vos branchements d'égouts que vous êtes raccordé sur ces égouts. On n'est pas capable de dire avec précision à quelle hauteur l'eau allait se mettre dans le réseau d'égouts étudiés. Donc, on est loin de ces modèles, de ces schémas à boules, qui étaient en fait des grandes constructions à partir de cartes d'état-major. On en est vraiment à l'ère de l'informatique, où on va, sur base de la cartographie qu'on a relevée il y a une dizaine d'années, immédiatement rentrer ces informations dans les simulateurs et dans les logiciels de calcul. Et en fait, pour vous dire comment on approche la réalité, chaque tac d'égout que vous voyez dans la rue est en fait une entrée d'eau dans le modèle. Donc c'est assez proche de la réalité finalement. Et donc on va discrétiser cette imperméabilisation autour de chaque tac. Et donc on a des modèles assez précis pour pouvoir dimensionner correctement les réseaux. La notion de débit de temps sec, bien, je vous ai dit que ça n'intervient pas dans la recherche du volume de stockage qu'il va falloir mettre au point, mais ça va intervenir dans l'exploitation de ces volumes de stockage. Donc un bassin d'orage, pour schématiser, c'est un énorme bac qui se remplit avec des débordements de pluie et également un mélange d'eau usée, mais cette eau usée doit être la moins présente possible dans ces énormes bacs, parce que si vous avez trop d'eau usée, il y a des dépôts, s'il y a trop de dépôts, il y a des nettoyages importants à faire, il y a des gaz dangereux qui peuvent commencer à exister. Donc on va essayer, sur base de la consommation par hectare dans ces modèles, donc on sait qu'il y a par exemple dans telle région à peu près 50 habitants à l'hectare, dans d'autres régions 100 habitants à l'hectare, on va faire consommer ces 50 habitants à l'hectare par un profil d'eau bien connu. Tout le monde sait que on consomme de l'eau le matin, la pointe du matin, la pointe de l'après-midi. On va faire tomber ça dans le réseau, donc sans pluie, et on va se rendre compte que avec un facteur 10, par exemple, l'eau va atteindre 18 cm dans le réseau juste avant le déversoir qui va alimenter le bassin d'orage. Ça nous donne comme indication qu'il ne faut pas mettre nos déversoirs en dessous de 18 cm, parce que sinon on va alimenter ce bassin d'orage avec des effluents humains, et donc ce n'est pas vraiment ce que l'on recherche. Donc ce facteur d'équivalent habitant intervient pour dimensionner le seuil des déversoirs. Et c'est une première donnée pour pouvoir calibrer les bassins d'orage que l'on doit construire. Je vous ai dit, on commence avec une pluie synthétique, avec des courbes d'enveloppe, et puis après, il faut quand même calibrer le modèle, parce que quand on a 500 ou 1000 hectares à modéliser, il suffit qu'on ait une erreur dans cette cartographie qu'on peut en tirer des mauvaises conclusions. Or, un stockage de bassins d'orage de petite taille, c'est entre 1000 et 1500 euros du mètre cube. Donc si vous avez un stockage de 10 000 mètres cubes, c'est 15 millions d'euros. Donc il faut quand même essayer de le mettre au bon endroit. Donc il ne faut pas se contenter de faire de la théorie. Il faut aussi calibrer le modèle. Une fois que l'on a fait la première étape qui est de la pure théorie, on va avoir des endroits où on sait qu'il y a des risques de débordement importants. Il y a plusieurs solutions. On fait ou bien des enquêtes chez les riverains, ou bien on instrumente le réseau, comme je l'ai déjà montré précédemment. Instrumenter le réseau, faire des enquêtes riverains, prend évidemment du temps, et donc les cycles d'observation sont assez longs. Donc, voici un exemple de nouveau porté en carte dans les environs du Woluwe Shopping. Toutes les petites habitations rouges, jaunes, vertes sont en fait des habitations auxquelles on a distribué un courrier avec toute une série de questions pour être certain qu'ils sont inondés par les soupiraux ou par refoulement d'égouts. Et donc, on va essayer de faire la corrélation entre les plaintes des gens et ce que nous donnent les modèles. Ceci, c'est une vue d'un modèle. Ceci, c'est une vue en carte des plaintes. Donc, vous voyez, en fait, une coupe en long dans une rue. La ligne verte, c'est le niveau du terrain. La ligne bleue, c'est le niveau de l'eau dans le réseau d'égouts. Et la ligne fuchsia, c'est les dimensions de l'égout. Donc, ceci, c'est le niveau terrain. La ligne bleue, c'est le niveau de l'eau dans l'égout. À un moment donné, le niveau maximum d'eau dans l'égout. Et la ligne fuchsia, c'est les dimensions de l'égout. Alors, on fait ici, par exemple, un profil en long sur 2 km. Ceci, c'est dans une autre vallée que la vallée d'Ucle. Et on se rend compte qu'à un certain endroit, on a des surpressions d'eau, d'égout, jusqu'au niveau de la voirie. On fait une enquête riverain, on se rend compte que tous les gens exactement situé ici, souffre d'inondation avec cette fameuse pluie décennale. Et effectivement, on peut estimer que la calibration du modèle est correcte. Donc ça, c'est une correspondance simulation plainte. Et puis, il y a également d'autres types de calibration possibles. C'est l'instrumentalisation des réseaux. Donc d'une part, on enregistre les pluies. C'est avec cet appareil-ci, ça s'appelle un pluviomètre à haut jet. Donc la pluie tombe et fait basculer ces deux petites cuillères et en fonction du nombre de basculements, on est capable de déterminer précisément l'intensité de la pluie. Et alors dans le réseau d'égout, vous avez ici une sonde qui est en fait une sonde à pression et qui va nous donner les fameuses courbes que je vous ai montrées au début et qui donnent le niveau de l'eau maximum atteint dans le réseau d'égout étudié. Donc ça, c'est l'autre possibilité pour faire la calibration des modèles. Donc, voilà la théorie. Maintenant, je vous parle de la pratique. C'est dans la vallée de la Wolu. Dans les environs du Woluwe Shopping, il y avait dans la rue Drise, tout au bout de cette vue en carte, il y a déjà un bassin d'orage existant qui avait été déterminé avec les premières théories que je vous ai montrées il y a une vingtaine d'années. Donc ici, il y a un bassin d'orage de 35 000 m3 qui se remplit. Un bassin d'orage protège généralement l'aval. Mais en amont, il y avait sur plus d'un kilomètre 500 encore des inondations. Il y avait des surpressions dans le réseau. Donc ce que l'on a voulu faire, c'est en dessous du réseau existant, donc toujours la même symbologie, en fuchsia, c'est les dimensions de l'égout, en vert, c'est le terrain naturel, et en bleu, c'est la ligne d'eau. On a voulu, à l'aide de déversoirs, faire tomber l'eau dans un égout que l'on a situé de manière beaucoup plus profonde, à 15 mètres de profondeur, par des techniques de fonçage, c'est une espèce d'autoroute à eau, qui va acheminer la même quantité d'eau ici au bout dans le bassin d'orage. Donc, lors de l'étude, on voulait limiter ce fonçage sur à peu près 800 mètres. On s'est rendu compte, avec les modélisations et avec la calibration dont je viens vous parler, qu'il restait encore des surpressions en amont, sur à peu près 700 mètres. Donc, aller investir 3 millions d'euros pour avoir encore la moitié des gens en amont qui ont des problèmes, c'est véritablement dommage. Donc, on a, grâce à cette simulation, étendu ce fonçage sur à peu près 1 km 500 et pour ne plus avoir de problème d'inondation. Alors, c'est un chantier qui a eu lieu dans les environs de 2007-2008, je crois. Et on a eu de forts orages pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Vous en avez certainement souffert aussi ici sur Ucle. Et bien sûr, les 200 habitations qui étaient encore inondées, nous n'avons plus qu'une plainte d'inondation. Donc je crois que on peut raisonnablement estimer que c'est un outil qui permet de voir clair dans des choses qui ne sont pas si évidentes à comprendre que ça. Okay. Bon, évidemment, comme je le disais, tout ça a un coût. Dans ce cas-ci, c'était créer un réseau inférieur pour descendre la ligne d'eau sur laquelle étaient raccordés les riverains. pour acheminer cette même quantité d'eau vers le bassin d'orage existant. Donc on peut voir le type de travaux avec le slide suivant. Ce sont des travaux lourds. Un fonçage, c'est, vous voyez ici, c'est une tête de fonçage. Un fonçage, c'est une grosse foreuse que l'on met à 15 mètres de profondeur et qui tire des gros tuyaux derrière elle pour ne pas réouvrir toute la voirie, mais il n'empêche qu'il faut quand même accéder à des puits d'accès. Il faut travailler sur des réseaux anciens, donc vous voyez ici un égout existant sur lequel on va devoir créer un déversoir pour faire tomber l'eau dans le fonçage dont je viens parler. Donc ce sont des travaux très lourds et donc il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que, par exemple, le bassin d'orage de Saint-Jacques, dont on parlera par la suite plus en détail, ça a mis du temps à l'étudier, ça a mis du temps à calibrer le modèle, vous voyez les mesures que l'on a prises pour arriver à la construction concrète de ce bassin. Donc maintenant, je vais parler du vraiment dans le détail, la vallée du Gelsbeek. Donc, la vallée du Gelsbeek est une des premières vallées que l'on a étudiées au tout début avec l'Ibra, par exemple, puisque c'était là qu'il y avait des plus gros problèmes d'inondation qui étaient relatés par la commune d'Uccle. On voit de nouveau cette transposition entre les anciennes cartes Ferraris du XVIIIe siècle et Google Maps. Donc, on se rend compte que, eh bien, oui, la vieille rue du Moulin, il y avait un cours d'eau, il y a le Gelsbeek qui court tout le long de Saint-Jacques, donc on peut quand même raisonnablement penser qu'il y a toujours eu de l'eau dans cette vallée, et que bien maintenant avec l'imperméabilisation, ben, cette eau est toujours là. Et donc, on a, avec le slide suivant, voulu étudier en détail, comme on l'a fait pour Saint-Lambert, comme on l'a fait pour d'autres communes, en détail ce qui se passait sur cette vallée. Donc, c'est un modèle, donc j'ai parlé de modèle hydraulique pendant 15 minutes, c'est un modèle qui ici comptabilise 760 hectares d'imperméabilisation et à peu près 80 km de réseau. Donc on a introduit toutes ces données dans les modèles dont j'ai parlé en large là précédemment et on a fait tomber des pluies pour voir comment se comportait le réseau. Alors toujours la même symbologie, c'est un profil en long sur plusieurs kilomètres. Qui montre quoi? Mais qui montre qu'avec cette fameuse pluie décennale dont j'ai parlé tout au début, avec cette pluie décennale, on a effectivement des surpressions anormales. Alors, c'est important de dire ou d'expliquer ce que c'est qu'une surpression anormale. Une surpression anormale, c'est quand le niveau d'eau, donc en bleu, hein, toujours, le niveau bleu, est supérieur au niveau de la voirie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conditions de raccordement à l'égout d'hydrobrut stipule bien que un raccordement riverain doit être étanche jusqu'au niveau de la voirie, c'est dans les conditions générales de raccordement. Donc, on considère qu'il y a une pathologie de type public à partir du moment où, même en étant étanche jusqu'au niveau de la voirie, eh bien, les événements font qu'on ne sait plus se protéger à l'échelle de la parcelle, et c'est donc au public à intervenir. Alors, on se rend compte sur cette développée sur plusieurs kilomètres avec comme point de repère, je suis certain qu'il y a des gens dans la salle de la chaussée de Rogenbos qui en fait vient dans l'autre sens et puis ça part par la rue de Melkrieg vers la station sud, donc le repère chaussée de Rogenbos étant là, on se rend compte qu'il y a effectivement aux abords de la place Saint-Jacques et de l'arrivée de la vieille rue du Moulin énormément de surpression d'eau. Alors les hypothèses de travail sont très claires, c'est une décennale, mais sans eau parasitaire, donc sans rentrée d'eau du Gelsbeek dans le réseau d'égout que l'on a étudié. Donc on se rend compte déjà sur base de ce profil en long qu'il faut intervenir. La première intervention qui est planifiée dans cette vallée de Gelsbeek, c'est le bassin d'orage qui est en cours d'exécution de la place Saint-Jacques. Il complète un bassin d'orage existant, donc la commune d'Uccle avait déjà construit un bassin d'à peu près 500 mètres cubes sous la place. On rajoute 4000 mètres cubes à ces 500 mètres cubes. En fait, ce sera une grande caisse en béton qui fait 73 mètres de long sur 6,20 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Et après, on remet la place dans son pristin état. Donc, quand on voit en plan, une vue en plan, des égouts qui vont alimenter la place Saint-Jacques, mais c'est tout ce que vous voyez en rouge. Donc, tous ces réseaux vont alimenter la place Saint-Jean. Ça veut dire aussi clairement que ça sert à rien d'aller mettre 20 000 m3 sous la place Saint-Jean, parce que vous voyez qu'il y a encore toute une série de réseaux qui ne vont pas tomber dans ce bassin d'orage. Et c'est pour ça qu'on va devoir compléter le dispositif de protection de cette vallée par d'autres bassins d'orage. Donc voilà une vue en plan du bassin, le bassin d'orage existant, le bassin d'orage que l'on va créer. On va créer un déversoir sur l'épine dorsale hydraulique de la vallée de Saint-Job pour acheminer l'eau dans ce bassin de 4000 m3. Donc quand on voit les effets de la construction de ce bassin de 4000 m3 sur cette fameuse ligne d'eau dont je parlais précédemment, on se rend compte qu'il reste des surpressions, toujours sans eau parasitaire, il reste des surpressions à l'aval de l'arrivée de la vieille rue du Moulin. Donc on va devoir compléter le dispositif dans les années qui suivent par un bassin d'orage que l'on va réaliser dans les environs de la vieille rue du Moulin. Pour en revenir à la vallée, au bassin d'orage sous la place Saint-Job, en fait, on va construire une grande caisse en béton. J'ai voulu imager ici le génie civil. Ce sont vraiment des parois moulées que l'on va enfoncer bien profondément. Ce seront des moments difficiles à passer, très certainement, pour les riverains et pour les commerçants. Mais par après, ça permettra quand même de résoudre ces problèmes hydrauliques. Et donc, ce chantier-là qui est en cours, est prévu pour sa finalité en juin 2013, mais il sera opérationnel pour les périodes orageuses de 2013, déjà dès avril ou mai 2013, puisque quand je dis fin de chantier juin 2013, c'est certainement encore de l'électromécanique, des pompes, etc., donc des choses qui sont moins visibles. Le génie civil sera, lui, bien construit. Donc, on continue cette vallée de Saint-Job ou cette vallée du Violettes-Bec en se rendant compte donc qu'avec la vieille rue du Moulin, il y a tout un apport supplémentaire qui ne sait pas être intercepté par le bassin d'orage placé sous la place Saint-Job, et c'est donc un dispositif complémentaire pour lequel nous n'avons pas encore vraiment finalisé la position final, ce sera dans le domaine public, bien entendu. On va encore avoir des réunions avec le service des travaux de la commune d'Uccle pour pouvoir le positionner correctement. Mais si on suit le même timing que l'on a eu pour le bassin d'orage de la place Saint-Job, on peut estimer que des travaux pourront être visibles en 2014 pour ce dispositif complémentaire. Mais c'est pas tout. La vallée du Violettes-Bec se prolonge par la suite, donc 4000 m3 vieille rue du Moulin, avec les 4000 m3 précédemment placés sous la place Saint-Job, on voit qu'on a une ligne hydraulique qui est déjà beaucoup plus correcte, beaucoup plus potable avec cette fameuse puits décennale. Néanmoins, on a voulu complémenter ce dispositif avec un troisième bassin d'orage, qui se situera aux abords de la plaine du Bourdon. Donc si on voit ce que se ramasse la plaine du Bourdon, c'est tout ce que vous voyez en rouge, donc vous voyez que là on commence à avoir presque la totalité du réseau, mais seulement il ne faut pas oublier que l'on aura placé un bassin d'orage sous la place Saint-Job, un bassin d'orage quelque part, situation encore à trouver, dans la rue Vieille Rue du Moulin, et donc également, on espère, mais ça évidemment il faut voir si ces travaux pourront être concomitants, on espère pouvoir entamer les premiers travaux en 2014. Ce sont évidemment des chantiers qui sont tributaires de permis d'urbanisme. Si on fixait 2000 m3 à la plaine du Bourdon, je ne dis pas que ce sera 2000 m3, mais si on fait l'exercice théorique de prendre 2000 m3 en plus des 4000 m3 en plus des 4000 m3 à la plaine du Bourdon, 2000 m3, on se rend compte que cette ligne d'eau est tout à fait sous contrôle. Néanmoins, je reprécise que c'est sans tenir compte des eaux parasitaires. Or, des eaux parasitaires, il y en a. Donc, il va y avoir un travail important de déconnexion de ces eaux parasitaires avant de vraiment pouvoir figer définitivement le volume que l'on devra placer sous la plaine du Bourdon. Donc, la plaine du Bourdon est un des dispositifs les moins avancés dans les dispositifs dont je viens de parler.
Bon, parlons calibrage, il y a eu une pluie le 18 août. Pour information, l'occurrence de cette pluie du 18 août 2011, c'était une occurrence de 70 ans. Sans dispositif, on voit la ligne d'eau théorique. On voit effectivement qu'il y avait de l'eau au-dessus de la voirie. C'est normal, hein, puisque déjà avec une décennale, on a de l'eau au-dessus de la voirie, avec une occurrence de 70 ans, on en a également. Donc, c'est des photos que vous connaissez mieux que moi pour y vivre. Nous avions un chantier sous Saint-Job qui consiste à guniter et à réparer le réseau d'égout qui a quand même quelques faiblesses dans ces environs-là. Effectivement, on retrouve ce que l'assimilation nous donne, donc vraiment un torrent qui dévale dans cette vallée. Si maintenant, même avec une occurrence de 70 ans, on met dans le modèle 4000 m3, vieille rue du Moulin, 4000 m3, Saint-Job, 2000 m3, Bourdon, on voit que l'on a de nouveau une ligne d'eau qui est sous contrôle, pour autant que les eaux parasitaires ont trouvé également leur chemin. Alors, ces eaux parasitaires, depuis le début qu'on a étudié la vallée de Saint-Job, on s'est rendu compte qu'elles avaient quand même un rôle assez important, notamment en instrumentant le réseau. On a placé des capteurs dans la vallée, donc dans la chaussée de Saint-Job, en face du 438, on a placé des capteurs, chaussée de Roggenbos, également en face du numéro 98. Et avec une vraie pluie, le 19-2005, une vraie pluie, on a mesuré les hauteurs d'eau dans les réseaux et on s'est rendu compte que le niveau par rapport au radier, donc au fond de l'égout de l'eau en amont de Saint-Job, atteignait 4,50 m. Je crois que le réseau est effectivement une profondeur de 4,50 m. Donc en fait, le grand plat que vous avez ici, c'est la saturation des capteurs. En bout de course, vers la chaussée de Roggenbos, on avait à un endroit à peu près 3 mètres de hauteur d'eau dans le réseau d'égout. C'est assez normal parce que cette pluie de septembre était une pluie d'occurrence 40 ans. Donc on a fait l'exercice inverse, on a enregistré la pluie, on a été dans les tables, on s'est rendu compte que l'occurrence est de 40 ans, on ne dimensionne pas pour 40 ans. Effectivement, on peut comprendre qu'il y a des surpressions. Par contre, on a également mesuré une autre pluie, une pluie en juillet 2005. On a fait l'exercice inverse, donc on a mesuré la pluie. On a fait l'exercice inverse avec les tables statistiques, on s'est rendu compte que l'occurrence était à peine supérieure à 5 ans, donc inférieure à la décennale qui nous sert d'hypothèse de travail. On retrouvait 4,50 m de niveau d'eau en amont de cette vallée de Saint-Job, et on retrouvait, pas 3 mètres, mais quand même 2,50 m. Donc il faut se dire que si on a 2,50 m d'eau par rapport au radier et que votre raccordement arrive même à mi-rein de l'égout, il est clair que si vous avez 2,50 m, par vase communicant, on y reviendra par après, par vase communicant, on retrouve de l'eau dans les caves. Et donc, qu'on ait une pluie d'occurrence 5 ans, ou qu'on ait une pluie d'occurrence 40 ans, on se rend compte que le réseau réagit quand même de manière assez violente, et donc on a, et après on a constaté qu'il y a des venues d'eau parasitaires, et donc avec la commune, on travaille à, en plus de réaliser ces stockages d'eau usée, on travaille à trouver la meilleure solution pour déconnecter ces eaux claires de cette vallée de Saint-Job. Donc c'était une petite parenthèse sur l'influence des eaux parasitaires. Donc il y a d'autres cas dans cette vallée du Velesbé ou de Saint-Job qui sont des cas plus ponctuels, notamment aux abords d'un pont de chemin de fer, rue des Bigarots, et également la chaussée de Roggenbos qui revient finalement à contre-courant de la vallée de Saint-Job, aux abords de la rue de Mill Creek, où en fait la solution n'est pas de faire des bassins d'orage pour ces deux cas, mais dans un premier cas, et on verra pourquoi, ça consiste à placer un égout supplémentaire. Dans l'autre cas, chaussée de Roggenbos, c'est d'éviter que deux flux totalement antagoniste ce télescope avec des effets dynamiques, et on va réaliser une grande chambre dans ce carrefour pour essayer de faire en sorte que l'eau rejoint la rue de Mill Creek de manière plus adaptée, plus
plutôt que d'un télescopage. En plus, bien sûr, de tous les stockages que l'on a prévus et dont je viens de parler dans cette vallée. Donc en termes de timing, pont du chemin de fer Bigarreau, c'est finalement une question de trouver la place sous le pont, et on verra pourquoi j'évoque ce problème de place. La datation Mel Creek, c'est plutôt au deuxième trimestre 2013, parce que pour réaliser un ouvrage de cette importance, je crois qu'on devra forcément passer par un permis d'urbanisme. Donc le pont SNCD Johannes Bigarreau, en fait, le problème est assez simple finalement. Ceci, c'est une coupe dans le pont de chemin de fer qui est un pont de chemin de fer en maçonnerie, un pont de chemin de fer SNCB. Et en fait, ils avaient l'habitude de construire une maçonnerie de masse avec un radier en maçonnerie et ici un pont. Et quand on met un pont qui traverse une voirie, eh bien, il est clair que tout ce qui est impétrant, égout, etc., qui est dans le chemin pour mettre ceci sous le sol, ben, on l'enlève. Et la SNCB, à l'époque, avait prévu, dans le radier du pont, un égout qui est circulaire et qui fait 80 cm de diamètre. Alors, quand on sait que vous avez ici trois égouts qui débouchent pour passer en dessous du chemin, en dessous du pont de chemin de fer, le chemin de fer est ici, le pont de chemin de fer est là, et que vous avez des égouts de grande taille qui après doivent passer dans un petit tuyau de 80 cm, ben effectivement, il y a une insuffisance de réseau, et donc il faut trouver une solution pour placer un égout supplémentaire ici en dessous, quelque part, en dessous du coffre de la voirie qui est plus ou moins ici. Donc, on recherche la meilleure solution. On a vu par simulation, encore une fois, le terme simulation théorique, on a vu que en rajoutant un tuyau de 80 cm de diamètre, on pouvait résoudre les problèmes d'inondation. Donc en fait, pour schématiser ce que je viens d'expliquer, vous avez un diamètre 80 cm qui a été placé en même temps que le pont. Bon, la prescription maintenant, ça fait un bout de temps, donc on est ici. Tout le réseau qui alimente ce petit diamètre 80 cm, c'est ce que vous voyez en rouge, en plan. Vous avez après le pont un ovoïde, donc un égout qui a une forme d'œuf inversé, qui fait 1 mètre de large sur 1,50 m. Mais l'eau qui arrive dans le diamètre 80, vous avez d'une part un ovoïde, donc un œuf inversé qui fait 60 cm de large sur 90 cm de haut, ça va, c'est un petit peu dans les mêmes gammes de diamètre que ce diamètre 80 qu'a mis la SNCB, mais il y a également dans Gazelle un ovoïde qui fait 1 mètre sur 1,50 m de haut, et dans la rue ou l'avenue Homborg-Welt, également un ovoïde qui fait 90 cm de large sur 1,50 m de haut. Donc évidemment, quand on fait un entonnoir dans un diamètre 80, effectivement, il y a des surpressions. Surpressions qui, avec une modélisation hydraulique, ne sont pas catastrophiques. Néanmoins, elles sont la cause de vases communicants et de désagréments que rencontrent les riverains. Donc on voit sur le slide suivant, avec une modélisation, donc sous l'ovale rouge, vous avez en fait le pont du SNCB, vous voyez qu'il y a une surpression qui lèche le niveau de la voirie, et avec le rajout d'un égout supplémentaire, on arrive de nouveau à avoir une eau, un niveau d'eau qui est maîtrisé dans le réseau d'égout. Donc voilà un des cas particuliers qu'on est en train de résoudre. On a vraiment plus qu'un problème de place, de position de ce diamètre 80 sous le pont, et le problème est résolu. Donc c'est un horizon normalement assez proche. Maintenant j'en viens à ces fameux vases communicants. Donc Hydrobru est conscient du fait que le fait de dire qu'il y a pathologie publique, que quand il y a une surpression jusqu'au niveau de la voirie, bon ben, il faut quand même essayer d'accompagner les gens dans les problèmes de type vase communicant malgré tout, parce que ce qui se passe dans bien des cas, c'est que vous avez un égout qui fonctionne plus ou moins normalement, même une surpression jusqu'à la voûte, c'est normal pour un égout, mais seulement comme vous avez la cave, un stirput, une machine à laver, un lavabo, des toilettes qui se situent au niveau du niveau d'eau qui circule dans l'égout, par vase communicant, vous allez avoir des inondations. Donc, ce n'est pas une pathologie de type public, néanmoins, Hydrobru est de plus en plus conscient qu'elle a un rôle de conseils à donner peut-être, et c'est en cours de discussion pour le moment au sein d'Hydrobru, pour voir sous quelle forme on va pouvoir conseiller les riverains et leur trouver des solutions pratiques à des problèmes qui ne concernent pas Hydrobru finalement. Donc il y a plusieurs solutions pour résoudre ce type de problème. Là, vous avez quelques solutions qui sont évoquées. Ben, le principe est toujours le même, c'est d'essayer d'avoir un niveau d'eau qui ne va pas perturber votre cave. Autrement dit, vous allez devoir vous conformer aux prescrits des raccordements Hydrobru, c'est d'avoir un raccordement étanche jusqu'au niveau de la voirie, donc pas de stair-fut. Si on met une machine à laver en cave, il faut prévoir des dispositifs de type clapet anti-retour qui évitent que même par la tute de raccord de votre machine à laver, vous avez de l'eau d'égout qui va commencer à remplir la cave. Donc c'est toute une série de petits conseils où un cas n'est pas l'autre et on voit sous quelle forme on va pouvoir aider au mieux les gens qui sont affectés par ce type de problème. Dernier élément pour la vallée du Gleisbeek. C'est une nouvelle pause dans Munsberg, c'est un chantier qui va démarrer d'ici 5 à 6 semaines. Il y a une première réunion avec la commune, une réunion de démarrage, où on va, dans Munsberg, faire une pause d'un réseau sur à peu près 400 mètres sous la voirie, parce qu'il n'y a pas d'égout et toutes ces habitations n'ont pas d'égout pour le moment. Et une fois que ce chantier va démarrer en juin, il faut compter à peu près 50 jours ouvrables hors intempéries et hors réalisation des branchements particuliers. Donc voilà, je citais ceci pour être complet. La rue du Bourdon va également être affublée d'un réseau d'égouts, mais seulement ça se passera dans une phase ultérieure, parce que dans la rue du Bourdon, il y a des réseaux d'eau potable, de distribution, en fonte grise en plein milieu de la rue, et on va d'abord dédoubler ce réseau d'eau potable avant de pouvoir mettre un réseau d'égout. Et donc là, on est plutôt dans les environs de fin 2013, mais je n'ose pas trop m'avancer sur cette date. Ce sont des choses qui sont encore en cours de discussion. Par contre, Munsberg, la réunion de démarrage a eu lieu et le début de chantier, c'est juin 2012. Donc je ne sais pas si à présent la commune souhaitait intervenir dans la vallée du Gleisbeek et après je passerai dans la vallée du Verwinkelbeek. Si vous voulez, je passe Hückelbeek, je passe comme vous voulez.
On va peut-être remancher effectivement sur la commune, pour rester quand même vallée par vallée, et puis les exposés sont peut-être plus courts pour les deux autres vallées. Vous avez quand même rappelé une série de questions, de principes qui valent pour les trois vallées. Pour le Munsberg, vous avez terminé par ce point-là. J'en ai parlé avec mes services, on va encore prendre contact avec Hydrobru, mais je pense, vu les conséquences, l'organisation du chantier qu'on va avoir pour les riverains, qu'on projette à l'animé de faire une réunion avec les habitants de Munsberg pour en discuter avec eux et leur présenter les différentes mesures d'accompagnement que l'on envisage. Bien entendu, au niveau de la commune, on a un premier rôle, c'est en quelque sorte d'être le harceleur d'Hydrobru de Villacois. Hein, ils le savent très bien que nous les relançons très régulièrement pour qu'un certain nombre de travaux soient réalisés, et notamment les deux derniers qu'a cité M. Brours, les problèmes du pont Bicarro-Chemin-Fer, les problèmes du carrefour de Rogonbos, Melcric, nous avons fort insisté effectivement pour qu'en dehors des bassins d'orage, des investissements spécifiques soient réalisés pour résoudre les problèmes récurrents d'inondations, même très fréquents, auxquels les habitants à ces deux endroits sont confrontés. Mais alors nous essayons aussi au niveau de la commune de mener toute une politique qui vise effectivement à éviter ce qu'on appelle les eaux parasitaires, comme l'a cité M. Brouwer, c'est-à-dire au fond à éviter qu'un certain nombre d'eau claire se retrouvent dans les égouts, un certain nombre d'eau de sources ou autres, qui évidemment alors contribuent par temps d'orage à encore augmenter la suppression de l'égout et les risques d'inondation. Alors je ne vais pas vous reprendre tout ce qui a été fait depuis la législature précédente par exemple, mais rien qu'au niveau de cette législature-ci, nous avons mené un certain nombre d'opérations, notamment sur le Gleisbeek. Je vois en 2017 par exemple, on a curé le Gleisbeek entre la rue de la Chênée et le Papenkastel. Dans un tronçon, le Gleisbeek se trouve totalement souterrain. Ça conduit à ce que l'on a enlevé 600 mètres cubes de sédiments. Mais ça a aussi conduit à constater effectivement le mauvais état de la canalisation, la nécessité de le remplacer à cet endroit. En 2008, à l'occasion d'une remise en état du parking au Clos Bourgmestre de Kayser, suite à un enfoncement qui s'était produit, on a découvert qu'il y avait beaucoup de sources dans cette zone, proche du ruisseau, et des sources qui allaient effectivement à l'égout. Et donc, on a organisé un certain nombre de choses pour changer cette situation, ou plutôt rejeter les sources au ruisseau, et les berges du ruisseau ont également été refaites. Et à ce moment-là, on a réalisé une étude hydrologique du bassin et du Gulf Bay afin de se rendre compte des volumes d'eau qui se retrouvent dans le fond de la vallée et de bien appréhender les problématiques d'interaction permanente entre les égouts et les ruisseaux. On a même mené également une étude sur la qualité des eaux du Gulf Bay afin d'évaluer l'amélioration de la qualité des eaux suite aux interventions dans la vallée. En 2009, il y a un bassin d'orage qui a été créé à ciel ouvert d'environ 1000 mètres cubes de volume le long de la vieille rue du Moulin où il y a beaucoup de problèmes qu'a cité M. Brou. On a profité du fossé qui longe la ferme du Front-Roi pour qu'il puisse servir de bassin d'orage par temps d'orage et il a fonctionné ces deux dernières années. On a également procédé au curage du Gulf Bay entre le Papenkasté et la ruine Gulam dans les fonds de jardin de la ruine Gulam où coule le Gulf Bay. Un nouveau mur de soutènement a été construit et la végétation très envahissante a été évacuée, un curage au fond du ruisseau a été réalisé. On a également posé une nouvelle canalisation dans le Gulf Bay entre le chemin du Caubert et le parking Bourgmestre de Kaiser, en remplacement du pertuis d'origine sous la chaussée de Saint-Job, perméable et qui s'était saturé de sédiments. La nouvelle canalisation posée dans l'ancien pertuis permet à l'eau de s'écouler plus facilement et empêche de miner les fondations de la chaussée de Saint-Job. En 2009, on a procédé au curage du Gulf Bay rue Cayenne-Bent dans un chantier consistant en un curage du ruisseau à la stabilisation des berges afin de les replanter en sous. On a également été aidé d'ailleurs dans la matière, en tout cas pour la plaine du Bourdon. Là, c'est la région qui a d'ailleurs réalisé toute une série d'opérations que vous connaissez, de réhabilitation, mais nous avons fait un certain nombre d'opérations en aval de la plaine du Bourdon. En 2011, il y a une étude d'infiltration qui a été faite et les travaux vont avoir lieu maintenant, sont en cours d'ailleurs partiellement. Déjà, en ce qui concerne les deux cimetières, parce que nous avons deux cimetières dans la vallée de Saint-Job qui représentent des superficies extrêmement importantes, le cimetière de Verwinkel et le cimetière du Diwek. Et l'idée, effectivement, c'est de favoriser les infiltrations d'eau dans les deux cimetières. D'autre part, en 2012, on vient de terminer, le point vient d'ailleurs demain au collège, pour décision, une étude de la pose de bâtards d'eau chaussée de Saint-Job près de la rue Lachette. C'est une solution temporaire, mais en attendant que tous ces bassins d'orage et que toutes ces opérations de découplage, là on peut le faire, des eaux propres et des eaux usées soient réalisées, on a quand même des situations pratiques de gens qui risquent, si on a de nouveau des pluies exceptionnelles, d'être inondés. Et donc on va effectivement poser, on appelle des bâtards d'eau, c'est-à-dire qu'on va mettre des pieux, quand même de 2 mètres de profondeur dans les trottoirs, et au-delà du sol, il y aura 80 cm qui va émerger, on pourra effectivement mettre des éléments devant les portes de garage, en quelque sorte des panneaux de bois qui pourront être retirés et mis lorsqu'il y a des fortes pluies qui vont permettre de conduire l'eau et éviter qu'elle se précipite dans les maisons concernées. Et donc là, la décision sera arrêtée demain au niveau du collège en ce qui concerne le cahier des charges, la consultation des entreprises. Et donc on espère pouvoir aller faire les travaux encore avant cet été. Nous avons aussi pris d'autres initiatives, mais plus générales, j'ai cité en matière environnementale, mais nous avons aussi avancé très fort, vu que là, normalement, la décision sera prise au Conseil communal du mois de juin, sur le détournement du ruisseau entre l'avenue de la Chenée et l'avenue Helvet. On a effectivement un problème que connaissent bien les habitants, c'est qu'à un moment donné, le ruisseau se retrouve dans l'égout. C'est vrai qu'en amont, vous avez dit qu'on a mis une série d'opérations de découplage, mais à un moment donné, le ruisseau se retrouve dans, à peu près à cette hauteur-là, dans l'égout. Et donc on va le découpler, on l'avait essayé, mais bon, il y a des difficultés pour avoir les autorisations des propriétaires concernées, même dans les fonds de jardin. Mais donc maintenant, on a mené toute une étude, lequel les charges sont en voie de finalisation, pour poser en fait une canalisation dans, en dessous de la chaussée de Saint-Germain, qui permettra effectivement de faire ce découplage. Et la réalisation de ces travaux est prévue au printemps 2013. Cette année-ci, il y aura encore des curages des berges qui seront réalisés entre Helvet et Papenkasté. La firme a déjà été désignée à cet égard-là. Et les travaux commenceront d'avril. Les premiers travaux qui seront effectués auront lieu là où il y a une dalle en béton qui s'est effondrée dans ce cas. Pendant longtemps, avant qu'on le clôture, servi de petit parking pour la boulangerie à Curmans, là où il y a un chemin à piéton qui relie également la chaussée de Saint-Job à la rue de l'Élysée. Donc on va commencer les travaux de réhabilitation des berges et du curage à cet endroit. Puis, à travers les permis d'urbanisme, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les dossiers, mais nous veillons aussi à prendre un certain nombre de mesures. Dans un dossier important comme celui du plateau Engelheim, il y a une première à Bruxelles qui est un système de lacunage qui va être installé, qui fait qu'aucune eau d'écoulement de la voirie ou aucune eau provenant des toitures ne va aller dans l'égout, mais que tout sera retenu soit par des bassins d'orage qui vont être implantés par le promoteur, soit pour ce qui sera les trop-pleins des bassins d'orage, par un lagunage, hein, ou éventuellement s'il y a encore un trop-plein dans le ruisseau. Alors, nous avons encore d'autres idées en matière de découplage eau propre eau claire, trois essentiellement. Une qui, normalement, j'espère, pourra se réaliser l'année prochaine, couplée avec des travaux d'hydrobru, c'est la problématique du trop-plein du Brook. Aujourd'hui, l'essentiel des eaux du Brook, du petit marais, font à l'égout. Donc l'idée, effectivement, c'est de le rejeter dans le ruisseau. Puis, à plus long terme, nous avons une réflexion, mais là, ce ne sera pas pour l'année prochaine, des travaux en ce qui concerne l'étang du Papenkaste. Mais alors, nous avons à plus court terme une réflexion qui est en cours, et c'est Mme Dewey qui l'amène ici, pour créer des noues chaussées de Saint-Jean, à droite de la chaussée de Saint-Jean, quand on vient de la Ringelam, sur des zones de recul importantes qui se trouvent là, et je vais lui laisser un petit peu détailler un petit peu cette idée.
Merci. Oui, voilà, parce que je voudrais juste préciser, effectivement, on peut considérer que les eaux claires sont des eaux parasitaires quand on a ce point de vue de la gestion du réseau. Mais je pense qu'en tant que commune, c'est aussi une richesse de pouvoir mettre en valeur les eaux claires et les ruisseaux qui traversent notre commune. Et au lieu de les laisser encombrer ou devenir un élément négatif sur le réseau, mais on peut envisager, et c'est la politique vers laquelle on va depuis quand même quelques années, c'est de tenter de mettre en place un traitement séparatif, c'est un grand mot parce qu'il convient à certains endroits pas partout, mais de faire une gestion différenciée des eaux claires et des eaux usées, et donc partout où ce sera possible, d'essayer de mettre à l'écart les eaux de ruissellement et les eaux d'écoulement lors de pluie, pour justement en profiter à ciel ouvert, pour amener à développer des zones où la biodiversité peut devenir une richesse par rapport à des zones humides, à des zones inondables. Et donc voilà, un premier essai va être lancé par une étude que l'on souhaite assez fouiller pour que ça se passe vraiment bien dans ce tronçon de la chaussée de Saint-Job dont M. Kohls vient de parler, c'est-à-dire... Voilà, tout à fait. C'est un projet qui a vraiment spécifiquement été proposé à un appel à projet de l'IBGE. Donc, il y aura un subside pour le mener à bien. Et donc, c'est une zone de recul assez importante entre la voirie et des façades de maisons, entre la rue Papenkastel et la rue Engelheim, où on peut justement profiter d'une zone le long de la voirie pour que ce soit visible par tout le monde, pour que ça ait un effet pédagogique. Et que ce soit aussi un essai de la part de la commune de voir comment gérer de façon spécifique ces eaux claires et éviter qu'elles aillent rejoindre les égouts. Et donc voilà, on cherche à y aménager soit de l'infiltration, soit des retenues d'eau semi-naturelles, mais pour y développer à la fois une zone d'agrément, une zone de biodiversité particulière et cette fameuse gestion différenciée des eaux claires qu'on essaie de développer à différents endroits. Et qui pourra également appuyer une compréhension de la part des habitants, puisque c'est une zone de recul. Toute cette idée de réhabiliter les jardinets de façade, et au lieu d'en faire des parkings imperméabilisés, par exemple, d'en faire plutôt des zones de jardin, des zones où l'eau peut être un élément plutôt favorable et non pas un inconvénient. Et donc avoir là vraiment un impact didactique, puisque en parallèle à ça, il développait et accepté par le collège une prime, des nouvelles primes, notamment à l'infiltration d'eau de pluie, pour encourager les gens à avoir cette même attitude de gestion des eaux de pluie à la parcelle. Mais ça peut-être M. Kohls voudra le développer.
Je crois que ça en répondra peut-être aux questions. L'important, c'est de savoir qu'il y a une prime. Puis j'ai eu il y a quelques instants notre bourgmestre au téléphone qui va encore bloquer une autre réunion, qui m'a donc prié l'excuser, mais qui m'a demandé de lui faire rapport de tout ce qu'il dira. Ce qui sera dit ici, ce que je ferai bien entendu. Et alors nous allons passer peut-être à la deuxième vallée, hein, Ucloise. Je repasse le micro à M. Hervé.
Merci.
Donc, je vais parler à présent de la vallée du Verewinkelbeek. Donc, on a parlé de la vallée du Gelletsbeek. Maintenant, on parle de la vallée du Verewinkelbeek, qui est un problème tout à fait différent par rapport au Gelletsbeek, où là, vous avez un réseau existant qui est donc bâti et bien là. Et ici, il n'y a pas de réseau du tout, ou en tout cas très peu. Et il va falloir poser pour répondre aux directives européennes, il va falloir poser à peu près 20 km de réseau d'égouts dans cette vallée du Verewinkelbeek. Alors il y a plusieurs acteurs dans la pose de ces réseaux dans ce bassin du Verewinkelbeek. Il y a d'une part la SBGE, la Société bruxelloise de gestion de l'eau, qui elle est chargée de poser un collecteur qui va récolter l'ensemble des égouts que Hydrobru va poser et qui est d'ailleurs en cours de travaux pour le moment. Donc ils sont en charge de récolter les eaux d'égout d'Hydrobru et de les acheminer vers la station d'épuration sud. Au passage, ils passeront par Drogenbosch, entre autres, pour arriver à la même finalité, c'est d'envoyer toutes les eaux usées vers la station sud qui, au départ, il y a pas plusieurs dizaines d'années, mais une quinzaine d'années, a été conçue pour recevoir cette charge supplémentaire. Donc là, le contexte est totalement différent et il faut, grâce de nouveau à ces simulations hydrauliques, éviter d'avoir des réseaux qui sont sous-dimensionnés. Donc pour se situer, la ville du Prince d'Orange est ici en crête de cette vallée. Donc, à l'aide de ce schéma, je vais vous expliquer une chose assez simple, c'est que chaque opérateur a eu à cœur de prévoir les stockages nécessaires pour éviter des problèmes d'inondation. Je vous ai dit, le premier opérateur, c'est la SBGE, Société bruxelloise de gestion de l'eau. Le but est d'acheminer les effluents d'ébranchement par un collecteur jusqu'à la station d'épuration. Ce collecteur qu'ils vont poser sur plus de 10 km a, et c'est bien normal, c'est dans tous les réseaux d'assainissement la même chose, a des mises en sécurité, c'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, il va y avoir un déversement dans le milieu naturel. Pas d'eau usée, mais d'eau qui est suffisamment diluée aux yeux de la législation. Mais, avec la commune, nous avons attiré l'attention depuis la genèse de ce projet, sur un problème très simple, c'est que si on va déverser par surverse lors des orages cette eau dans le cours d'eau du Verewinkelbeek, eh bien il va y avoir un gros problème, c'est que le niveau de l'eau de ce cours d'eau va monter. Ce cours d'eau passe bien souvent dans des parcelles, des jardins, et va créer des gros problèmes d'inondation. Et donc, nous avons, à l'aide de ces simulations, réussi à obtenir de la région, puisque la SBGE c'est une société d'utilité publique, mais niveau régional, on a réussi à obtenir de la SBGE qu'elle tamponne les eaux de telle manière que lorsqu'il y aura des versements à plusieurs endroits le long du tracé, il n'y aura pas un impact plus défavorable qu'actuellement sur le cours d'eau. Donc première étape, arriver à obtenir de la SBGE qu'elle tamponne et qu'elle réalise un bassin de rage, est-ce qu'elle va effectivement faire, et c'est en cours, c'est sur le prochain slide. Quand on voit le dispositif en plan, donc ça sont toutes les poses d'égout sur ce bassin du Verewinkelbeek. À cet endroit-là, le nom de la rue m'échappe, mais peut-être qu'on pourra m'aider, c'est rue de Perk pittoresque. À cet endroit-là, la SBGE a choisi d'implanter le bassin d'orage qu'elle finance. Donc un bassin d'orage de l'ordre de 1000 mètres cubes, si mes souvenirs sont bons. Nous, en parallèle, sans attendre que la SBGE continue son chantier, qui prendra encore quelques années pour atteindre la station sud, puisqu'en plus il faut traverser plusieurs régions, c'est d'autres permis, administrativement c'est fort complexe, on a décidé de déjà poser tous les réseaux d'égouts sur le territoire qui nous incombe, et donc on va travailler en trois phases. Nous également, grâce à la simulation hydraulique, on a pris en charge, Hydrobru a pris en charge, un stockage dans les réseaux d'égouts. Je vais vous montrer de quelle manière avec le slide qui suit. Donc bassin 1000 m3 plus des versements vers ruisseaux, ça c'est ce qui incombe au tamponnage régional. Et donc, le slide suivant, tamponnage hydrobrut, on va travailler de deux manières différentes. On va d'une part surdimensionner les réseaux que l'on va placer. Donc on va leur donner un élément capacitif plus important qu'un réseau qui ne fait que faire transiter de l'eau. Et en plus, comme on l'a dit en introduction, Vivacoin fait de la production d'eau, etc., etc., nous avions également des anciennes installations. C'est la grosse ligne verte qui traverse la vallée. J'ai de temps en temps des petits soucis. Donc, on a constaté que nous avions une ancienne amenée d'eau potable qui amenait de l'eau par le collecteur du 1, donc c'est un collecteur qui n'est plus utilisé pour le moment, qui amenait de l'eau de la région de Braine-l'Alleud sur Bruxelles vers les stations de pompage d'eau potable que l'on trouve dans le bois de la Cambre. Et on s'est dit, ben, puisque ce dispositif qui est en fait un tuyau à forte profondeur qui traverse plusieurs vallées, on va essayer d'en faire profiter Hydrobrut et donc de transformer cette amenée d'eau potable en réseau capacitif pour déverser des eaux usées, puisqu'on n'utilise plus pour le moment autant l'utiliser à bon escient, pour déverser de l'eau usée des réseaux que vous voyez ici en rouge et remplir ce collecteur existant, bien entendu en l'aménageant à un minimum, puisque de l'eau usée a une agressivité beaucoup plus importante qu'une eau potable. Donc on va devoir aménager ce pertuis à forte profondeur, mais il est existant. Donc ça veut dire, en termes de nuisance de travaux, on va arriver à stocker 2000 mètres cubes dans un collecteur existant avec un minimum de nuisance pour les riverains. Et donc, on va également voir sur les slides suivants que le tamponnage dans le réseau va essentiellement se situer dans les réseaux que vous voyez ici en rouge, avec un profil en long qu'on va deviner sur le slide suivant. En fait, ça consiste à placer un réseau de plus grande importance en termes de diamètre, de manière très faible pente par rapport à la déclivité du terrain, de manière à tamponner les eaux d'orage dans le réseau pour le restituer par la suite de manière progressive. Donc grâce à cette simulation hydraulique prise depuis le début, on a pu influencer l'investissement régional en obtenant un tamponnage à charge de la région de 1000 mètres cubes. On a pu trouver une solution qui est assez élégante puisqu'il n'y a pas trop de nuisances riverains en utilisant un ancien pertuis d'amenée d'eau potable, puisqu'on va transformer 2000 mètres cubes de ce réseau en stockage d'égout, et en plus en surdimensionnant le réseau qu'on va placer dans les rues que l'on a vues en plan là tout à l'heure. Donc trois grandes phases pour la pose de ces 15 à 20 km d'égout. La première phase a démarré en août 2011. On voit la liste des rues pour la phase 1. Donc ce sont des chantiers qui dépendent de pas mal d'autres aléas. Il faut savoir qu'il y a des tas d'autres impétrants qui sont tenus également de transformer leur réseau sur la commune d'Uccle, notamment, si je ne m'abuse, Sibelga qui doit éliminer ses conduites fontes, mais également les points lumineux au mercure qui doivent disparaître. Enfin bref, il y a d'autres directives européennes qui s'appliquent à d'autres impétrants, et donc il faut essayer que ces quartiers restent malgré tout vivables. Mais donc voilà la première phase. La deuxième phase, courant deuxième semestre 2012, sont les rues que vous voyez là, avec déjà de manière visuelle certains travaux qui vont commencer rapidement, puisque dans certaines rues il faut déplacer les vieux réseaux de fonte grise d'eau potable pour pouvoir mettre un nouvel égout. C'est notamment le cas de l'avenue des Aubépines, c'est notamment le cas du quartier des Sorbiers. Donc vous voyez avec plus ou moins de précision le début des travaux de ce déplacement de réseaux d'eau potable pour qu'après on puisse y mettre des égouts. Et puis une troisième phase qui démarrera courant deuxième semestre 2013 et qui concerne les rues que vous voyez défiler devant vous, avec certains endroits de la chaussée de Waterloo qui nécessitent aussi encore certaines pauses, mais là on dépend d'un projet régional. Donc là, on est en rapport avec la région, un projet régional d'aménagement de surface. Donc là aussi, c'est pour vous dire que donner une planification précise des années à l'avance, c'est loin d'être évident, mais en tout cas, on y travaille pour qu'on arrive à placer ces réseaux sans que la Commission européenne, qui a des directives très strictes et avec des dépassements de délais qui sont déjà presque entamés, n'enclenche des amendes qui pourront quand même se révéler être fort importantes. Maintenant, du côté intercommunal et communal, on pose des réseaux d'égouts avant même que le collecteur arrive à la station d'épuration sud. Donc je crois que d'un point de vue planification, on peut quand même être content et voir qu'on a pris le taureau par les cornes. Donc ça, c'était l'essentiel de cette vallée du Verrugueil, je crois. Oui, voilà. Donc je ne sais pas si la commune... Donc alors, dernière vallée, la vallée de Luckelbeek, là on est vraiment dans des zones fort denses, avec Defray, avec Bruckmann, Defray, la chaussée d'Alsenberg, Stahl, le pont de chemin de fer, le rond-point des mégalithes, et puis une sortie d'autoroute. Donc cette vallée est une vallée qui souffre d'inondations, et je crois que ça a été excessivement dramatique pendant cette période estivale du mois d'août. Donc la même chose, on a fait exactement le même cheminement que pour la vallée du Violetsbeek, on a remodélisé toute cette vallée. Donc là, je vous parlais de chiffres pour la vallée du Violetsbeek. Ici, la superficie du bassin versant qui a été étudié, c'est 542 hectares, 65 km de réseau, donc un petit peu moins que la vallée du Violetsbeek. Et on s'est vraiment rendu compte, effectivement, en faisant de nouveau le même exercice de faire tomber une pluie décennale renforcée sur ce bassin versant, comme on va le voir sur le slide qui suit, avec un profil en long, on s'est rendu compte de nouveau qu'on a des surpressions dans ce réseau d'égouts qui sont totalement anormales et pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. Alors il y a deux grandes épines dorsales, finalement, dans ce bassin de Luckelbeek. Il y a d'une part Bruckmann vers le rond-point des mégalithes, et puis il y a l'autre branche de Frey vers le rond-point des mégalithes. Que ce soit un cas ou l'autre, même constat, il y a vraiment nécessité de trouver une solution. Or, pour ceux qui connaissent la zone, mettre un bassin d'orage que l'on évalue entre 15 000 et 20 000 m3 de capacité, c'est loin d'être simple. Et donc là, on va devoir utiliser des techniques dont j'ai déjà parlé précédemment, qui sont des fonçages, c'est-à-dire, comme ce que j'avais évoqué pour la vallée de la Velue et de la rue Drisse, où on a mis un réseau très profond par fonçage, on va réaliser un petit peu le même système sur cette vallée-ci, si ce n'est que dans la vallée de la Velue, on venait avec ce fonçage vers un bassin d'orage existant. Ici, il n'y a pas de bassin d'orage. Donc, en plus de faire tomber l'eau à un niveau plus bas pour que les gens ne souffrent plus d'inondation, il va falloir donner un rôle capacitif à ce réseau que l'on va mettre en place à des fortes profondeurs. On va atteindre les 20 à 25 mètres de profondeur pour ces réseaux. Si on voit sur les slides suivants, on regarde la topographie générale du site, si on fait un profil en long, on a une déclivité de plus de 70 mètres sur 3 500 km, donc c'est vraiment énorme. Donc on va réaliser ce réseau capacitif qui est symbolisé ici par ces deux conduites réalisées à forte profondeur. En partant, l'étude est en cours, mais il n'y a pas beaucoup de solutions, d'autres solutions. En partant du square des héros, qui sera la base logistique de ce gros chantier, on va faire un énorme trou et on va enfoncer une conduite sur 1 500 km, d'une part en allant vers le Rhin, en s'arrêtant avant le pont du chemin de fer, et d'autre part en remontant dans Defray. Alors, puisqu'on doit atteindre de 15 à 20 000 m3 et qu'on a 1 500 km pour stocker tout ça, bien, ce seront des réseaux, vraiment, ce sera une première, ce seront des réseaux qui feront entre 3,50 m et 4,50 m de diamètre. Donc c'est par une technique de tunnelier et tunnelier voussoir. Jusqu'à présent, on a utilisé des tunneliers, des micro-tunneliers. Donc on a fait une réalisation sur Molenbeek, où on a fait le même type de démarche. On a mis un réseau en place à 15 mètres de profondeur, et là il fait 3 mètres de diamètre. Ici on va devoir viser un diamètre supérieur. Et on peut raisonnablement estimer que ces travaux vont voir le jour avant la fin 2013, parce que l'étape qui est nécessaire bien avant ce type d'énorme chantier, c'est le dépôt d'un permis. Or, il faut savoir que la région également a pour projet de faire des réaménagements de surface, notamment au Square des Héros, et donc il faut évidemment arriver à travailler de concert avec eux. Et donc là, l'étude a également démarré pour résoudre une fois pour toutes ces problèmes de cette vallée de Buchenbeek. Donc voilà, je crois que ma présentation s'arrête ici. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. J'espère que c'est peut-être un peu plus clair ce qu'est une pluie, ce qu'est un modèle, ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on essaye de réaliser. Bon, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.
Donc un petit mot peut-être additionnellement, je crois qu'on n'a pas cité, mais à la demande de la commune qui avait été reliée de Paris de Rebru, la SBGE a réalisé, c'est quasi terminé, un bassin de rage également de 1000 mètres cubes au coin de la rue de Perque et de la Trève de Cutores. Nous étions assez inquiets qu'il y ait trop de rejets d'eau au ruisseau, hein, de telle manière qu'il pourrait éventuellement se poser des problèmes lorsque le Linkebeek arrive à hauteur de la chaussée d'Azenberg, avec des maisons qui sont construites tout à fait au bord du ruisseau. Pour Linkebeek, deux choses en ce qui concerne la commune. Donc tout d'abord, nous avons réalisé un égouttage du parc de Wolvendal, avec d'ailleurs l'appui financier de Belliris. Il y a eu des bassins de rétention qui ont été créés, notamment deux étangs qui ont été créés. On a recréé un étang comme il existait avant devant le château, et l'ancien mini-golf a également été remplacé par un étang, ceci pour qu'il y ait moins de débordements vers la rue Rouge et l'avenue de Bruy. Ceci étant, nous l'avons vu cet été dernier, il y a eu des volumes importants de boue qui ont aussi engendré beaucoup de problèmes pour les habitants qui habitent là-bas, venant du chemin du Krabbegat, avec les torrents qui se déversaient par là, qui enlevaient toutes les terres des berges. Il y a 10 ans, nous avions demandé à la commune de pouvoir poser un égout. Ça nous avait été refusé par la Commission royale des monuments et des sites. On va vous montrer maintenant la situation suite à cette absence. Et ils ont effectivement maintenant marqué leur accord de principe pour que l'égouttage soit posé dans le cadre du dossier de rénovation que l'on a du Krabbegat. On va notamment refaire toutes les berges notamment aussi. Et donc on espère très prochainement avoir le permis et alors pouvoir effectivement passer aux travaux. Le dimensionnement des ouvrages a déjà été calculé, le cahier des charges était intégré pour tous ces travaux d'égouttage dans l'étude de rénovation du site. Puis il y avait un problème particulier qui, lui, on espère, pourra être résolu le mois prochain, c'est qu'on a découvert effectivement que le club sportif, qui est le club de tennis dans le haut, du côté de la Ripoll-Stroban, déversait quelque part toutes ses eaux dans la Ripoll-Stroban, puis après dans la chemin du Krabbegat, et évidemment provoquait aussi une érosion importante. Donc ils attendent normalement ce mois-ci l'autorisation de travailler dans ce site classé, parce qu'il y a 1 mètre à 2 mètres où ils doivent effectivement travailler pour poser un tuyau dans le site classé. Mais ils vont donc réaliser là effectivement un bassin d'orage. Donc c'est bien la volonté du propriétaire de le réaliser normalement au mois de mai de cette année-ci, donc d'éviter effectivement que ces eaux viennent dans la période estivale. Voilà, mais je crois qu'on a déjà été assez long, on avait dit 1 heure d'exposé, je crois que finalement c'est presque 1 heure et demie que vous avez dû nous écouter. Donc je vous passe tout de suite la parole. Monsieur, vous commencez à intervenir, je vous en prie. On va vous apporter un micro.
Donc j'estime, pour ma part, j'habite chaussée de Roggenbos, je vous remercie de votre présentation, c'est vrai que par un néophyte tel que moi c'est plus clair, mais avoir ça, franchement, il faut que je déménage, quoi. Il faut que j'aille sur la vallée de Saint-Job, il faut que je monte dans les hauteurs, mais certainement pas que je reste à chaussée de Roggenbos. La seule chose que je vous ai entendu dire, c'est une espèce de nouvelle chambre de visite parce qu'on se ramasse les écoulements des eaux des deux côtés, du côté de Roggenbos et du côté Falaise-Saint-Job. Mais vous croyez vraiment pouvoir me dire que ceux de la chaussée de Roggenbos qui font partie de Bucle seront protégés?
Donc, comme j'ai essayé de l'expliquer, effectivement, ce n'est pas uniquement un bassin qui va faire en sorte que tout est résolu. Je suis persuadé, par contre, quand on aura complété le dispositif des trois bassins que j'ai nommés, plus un travail qui n'est pas un travail de nécessité de stockage, mais de direction des flux, si vous avez vraiment une trombe d'eau qui se ramène et qui fait un mur d'eau par rapport à l'écoulement de la chaussée de Roggenbos, c'est des effets dynamiques qu'il faut résoudre, et la seule manière de résoudre ces effets dynamiques, c'est de faire comme je l'ai fait, comme je l'ai expliqué, c'est de considérer ce cas de chaussée de Roggenbos et le reste de la vallée comme un cas vraiment à part, un travail à part, d'une grande chambre à réaliser au carrefour pour diriger les flux correctement. Donc pour éviter que l'eau qui part dans Mel Creek ne fasse un mur par rapport à la chaussée de Roggenbos, et vraiment la guider. Pour la guider, il faut faire une énorme chambre de redirection des flux. Cette énorme chambre, on ne peut pas la réaliser sans demander un permis. Donc on va devoir demander un permis, déposer un permis, avoir les autorisations. Donc les plannings annoncés sont des plannings qui me semblent être quand même raisonnables. Et quand le dispositif des bassins de rage puis ces champs sont réalisés, vous n'aurez plus de problème, chaussée de Roggenbos, pour autant que vous n'ayez pas un stirput qui est au niveau du radier de l'égout, que vous n'ayez pas des machines à laver, des éviers, etc., sans protection particulière pour se prémunir des vases communicants, bien entendu. Là, c'est une autre facette qu'il faut déployer, qui est cette facette de service conseil, parce que je comprends qu'on est démuni par rapport à ce genre de problème. On voit une taque de stirput qui se soulève, de l'eau qui rentre, et on ne sait pas quoi faire, et on ne sait rien faire. Ça ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit. Parce que de toute façon, cette eau arrive, on ne sait pas les copier. Par contre, si vous n'avez qu'un stirput, et si vous n'avez qu'une taque qui bouge, le fait de faire une cheminée qui fait en sorte que le niveau de l'eau n'est pas inférieur au niveau du bout de cette cheminée à votre stirput, vous n'aurez pas de problème. Non, c'est que vous avez une connexion ailleurs, vous avez peut-être un évier, une touche.
Alors, chez nous, en tout cas en ce qui me concerne, clapet anti-retour, puisard, plus plus deux pompes qui évacuent directement l'eau dans la rue. Faire plus que ça personnellement, qu'est-ce que...
Ça, vous ne savez pas faire plus, mais on a montré avec les prises de mesure dans le réseau qu'avec une pluie de 5 ans, vous avez des niveaux d'eau qui atteignent de mémoire 2 mètres 50, et quand on avait une pluie plus importante, vous avez des niveaux d'eau qui atteignent 3 mètres. Oui. Donc, il est clair qu'avec des niveaux pareils, dans une vallée qui pour l'instant n'est pas protégée, vous ne savez pas faire plus que vous faites actuellement. Mais quand les dispositifs publics seront en place, c'est-à-dire les bassins et le retravail hydraulique avec cette grande chambre, je suis persuadé que vous n'aurez plus de problème.
Donc à mes voisins, à gauche, à droite, à la chaussée de Roggenbos, je leur dirai ce que vous venez de me dire. Donc, vous devez aussi, vous, en tant que propriétaire, vous devez vous prémunir, vous, chez vous, avec les différents dispositifs qui vous sont proposés, vous devez le faire chez vous. N'attendez pas, faites-le demain, quoi. Mettez votre clapet, mettez vos évacuations, construisez un puisard.
Le seul souci que vous avez en mettant un clapet, c'est qu'en fait, quand vous avez une surpression, c'est que votre clapet se ferme et vous allez être inondé par vos eaux de toiture si elles transitent en amont du clapet.
J'ai placé des citernes, placé trois citernes de 1000 litres dans mon jardin, toujours à mes frais, mais imaginez les frais qu'il faut mettre, j'estime pas être dans la classe moyenne, quoi. Mes frais s'évaluent, pour l'instant, je suis entre 20 000 et 30 000 euros. Et le clapet anti-retour, je suis d'accord, c'est 150 euros. C'est pas cher du tout, le clapet anti-retour.
Et bien souvent, des gens ne s'en rendent pas compte, donc des espèces de petits clapets que l'on colle en PVC sur une tute de machine à laver, ça coûte pas grand-chose et ça peut aussi résoudre des problèmes. Pas votre cas. Votre cas, vous êtes en bout de la ligne hydraulique. Je vous l'ai montré.
C'est le plan que monsieur montre, justement.
Je vous l'ai montré. Vous êtes en bout de la ligne hydraulique. Il y a 3 bassins à construire pour une totalité de minimum 10 000 m3 en tout. C'est clair, c'est pas avec votre citerne de 1000 litres que vous allez arriver à vous protéger. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait conscient de cela. C'est pour ça que depuis qu'on a été investi de la problématique, ça date des années 2003-2004, ça met du temps. Il a d'abord fallu faire une cartographie. J'ai expliqué pourquoi cette cartographie était importante, parce que dire on met un bassin là, on met 10 000 sous la place Saint-Jacques et le problème est résolu, c'est faux. Il y a des tas d'eau que vous n'interceptez pas, ça c'est grâce à la cartographie dont on s'en rend compte. Donc ça met effectivement du temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vous garantis également qu'après le placement de ces bassins de rage et le retravail hydraulique à ce carrefour qui peut se faire plus rapidement que deux autres bassins dont j'ai parlé là, vous serez prémunis contre des aléas acceptables. Pas contre la pluie du siècle, évidemment, mais en tout cas contre des aléas acceptables.
Vous avez montré une pluie 70 ans, on est bien d'accord, c'est là je ne discute pas les photos sont là pour en parler, mais la semaine d'avant, ce n'était pas une pluie de 70 ans. La semaine qui a suivi n'était pas non plus une pluie qui peut nous arriver tous les 70 ans. Je ne suis même pas sûr que ce soit une pluie décennale.
Non, en fait, ce que monsieur expose, parce que je connais bien la situation, c'est que dans un certain artère, on a parfois des inondations, mais parfois à 10 ans d'intervalle dans certains cas, si on va notamment dans certains endroits de la vallée de Duckelbé. Le problème de la chaussée de Saint-Jacques, c'est qu'ils sont... Le problème de la chaussée de Roggenbosch, c'est qu'ils sont inondés jusqu'à 4-5 fois par an, certaines personnes. Je prends l'année dernière, ils ont été inondés, mais ça n'était pas les seuls, le 18 août et le 23 août. Mais déjà au mois de septembre, de la même année, Rebelote, il y avait une... Alors que... C'était les seuls inondés dans la commune. Je n'ai personne d'autre au mois de septembre qui m'a téléphoné ou qu'on a constaté, où que ce soit, dans la commune. C'était uniquement chaussée de Roggenbosch. Donc, ce qui veut dire qu'en dehors du problème général qu'on a ici parlé, de voir par les différentes techniques qui vous ont été exposées, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a des pluies exceptionnelles pour éviter que les gens soient inondés, ben, ce sont toutes des infrastructures qui sont prononcées à certains temps à venir. La chaussée de Roggenbosch, elle est confrontée à un problème récurrent tout de suite. Alors, ce que moi j'ai compris de l'exposé de M. Bourse, et c'est celui de la démarche, il le sait que la commune a fait, c'est que non seulement il y a les bassins d'orage dont on a beaucoup parlé, mais ça va prendre un temps avant que tout ça soit opérationnel, vu que les derniers bassins d'orage, Vieille Rue du Moulin et l'autre plein de Bourdon, qui normalement, on a la côte Prince et de Libégeur, donc on va la côte Prince et la Telle et puis le permis, mais se situera en souterrain derrière la friterie, c'est là que la localisation est envisagée actuellement. Le temps que tout ça soit réalisé, je vais être prudent et que ce soit opérationnel, on risque d'être début 2015, me semble-t-il. Même au-delà, bien. Enfin, en tout cas, l'horizon 2015, si on commence à faire des travaux dans le deuxième semestre 2014, autant une année de travaux, enfin, on n'est peut-être pas encore pour l'été 2015, mais au plus tôt, on est pour l'été 2015. D'autre part, ce que nous avons obtenu, c'est ce que M. Brours, si jamais on peut accélérer les permis d'urbanisme et gagner 2 ou 3 mois, on fera des démarches auprès de la région pour cela, mais il faut d'abord que, évidemment, le dossier soit prêt. Et ça, c'est vrai que ça pouvait être une urgence du côté du Drebruss, ce serait bien pour la région que j'ai évoquée et que M. témoigne ici, qui en plus a fait tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'effectivement, j'y viendrai, c'est pas le cas de tout le monde, mais dans votre cas, vous n'avez rien à faire de plus que ce que vous avez fait à titre individuel. Non, honnêtement, vous n'avez rien à faire de plus. Parce que j'ai rencontré d'autres habitants de la chaussée Roggenbosch qui n'avaient pas de clapet anti-retour, etc. J'aurais parfois conseillé de les installer. Et si vous rencontrez certains de vos habitants, tous ne sont pas des ingénieurs, c'est pas une critique, je ne suis pas ingénieur, c'est juste non plus, qui habitent la chaussée Roggenbosch. Donc, ils peuvent prendre contact avec la commune, avec le service de la voirie. On essaiera de les renvoyer un technicien sur place ou de prendre contact avec Vicouvacois et Drebruss pour voir si eux savent envoyer un technicien. Ça s'arrangera que d'un des deux côtés, il y a un technicien qui s'y connaisse qui est sur place pour les conseiller comment effectivement faire ce que vous avez déjà fait, parce que peut-être que pour certains d'entre eux, ça peut résoudre parfois certains problèmes. Mais alors, l'aménagement qui est annoncé pour le deuxième semestre 2013, lui devrait éviter les pluies et les orages et les inondations récurrentes que vous avez, celles qui ne sont pas celles du vin tout à fait exceptionnel qu'on a normalement tous les années. Parce que c'est ça le but. On le voit bien, hein, quand on est au carrefour Mel Creek Dragon Boss, il y a un énorme étang qui se forme. Donc ça veut dire qu'il y a un bouchon quelque part. La première chose que nous avons demandé à Hydrobru, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'égout? On a demandé ça à plusieurs endroits où les gens étaient inondés. Par exemple, à Rue Van Oppen, l'étude d'Hydrobru a montré qu'il y a un énorme bloc de béton qui était dans l'égout. Et donc, il sans doute faisait un peu bouchon. L'Hydrobru a fait nécessaire pour enlever ce bouchon. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que l'étude faite par Hydrobru, l'examen qu'ils ont fait de l'égout, chaussée de Rubenbos, l'égout est en bon état. Mais, donc, ça ne s'agit pas de réparer un égout qui est en bon état ou d'enlever des crasses qui seraient dedans, qui feraient un bouchon, que sais-je. Donc, il y a effectivement un problème hydraulique, hein, et c'est ça ce que M. Brouge vous a exposé, hein, cette sorte de grande chambre de visite qu'il veut créer, enfin, travailler au coude, hein, entre la Cétrogolbos et ça, ça veut dire le deuxième semestre 2013, mais l'espérance, effectivement, à ce moment-là, c'est que pour 2014, en tout cas, pour l'été 2014, on n'ait plus les problèmes des pluies récurrents qui forment des inondations. Il y aura peut-être encore un problème pour les pluies tout à fait exceptionnelles, ça qui sont liées effectivement à l'eau un an plus tard. Mais à ce stade-ci, c'est ce qu'on peut vous répondre, je crois, pour la chaussée de Dragon Boss, mais je puis vous dire, ils sont témoignés, M. Matradjoli, M. Bourdeau et M. Brouge étaient encore là quand on a encore discuté très récemment du problème de la chaussée de Dragon Boss, que c'est quelque chose qu'on a fortement relayé déjà depuis un certain temps. Mais d'autres voulaient demander la parole, je ne sais pas, le voisin.
Voilà, voilà, bonjour. Je trouve que votre intervention, M. Bourdeau, a été convaincante par certains aspects. On comprend mieux le problème. Elle était un peu longue aussi, donc je vais essayer de faire très court. Mais je tiens quand même à prendre la parole au nom de l'association Uccle n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, on tient à vous exprimer nos plus vives inquiétudes quant à l'imperméabilisation rampante et structurelle qui grignote le territoire uclois. Les inondations catastrophiques de l'été 2011 ont fait la malheureuse démonstration que notre commune devenait un long fleuve pas tranquille, dès que les circonstances météo inaccoutumées mettaient à l'épreuve l'aménagement du territoire uclois. Alors face à la colère et aux griefs énoncés par les concitoyens inondés, M. Coles développe habituellement l'idée qu'une erreur historique, dont il n'est pas responsable, assurément, une erreur historique donc a été commise par nos anciens, qui ont urbanisé de manière peu prévoyante les vallées ucloises et leurs coteaux. Cette coupable négligence se paye dès lors cash lors des circonstances météorologiques qu'ils qualifient volontiers d'exceptionnelles. Eh bien, M. Coles, pour une fois, nous allons être d'accord. Oui, vous avez raison, il ne faut plus urbaniser de manière peu prévoyante les vallées ucloises, vu que l'exceptionnel météorologique devient la norme et que des gens habitent dans ces vallées loties par nos anciens. Alors, puis-je vous citer une liste non exhaustive d'inondations qu'a connue Uccle ces dernières années? Elle concerne un quartier ou la commune globalement. Ce sont des données parcellaires, elles ont été glanées à l'Institut Royal Météorologique, auprès du Fonds des Calamités, etc. Des organismes qu'on peut difficilement taxer d'agitateurs poujadistes pratiquant une condamnable désinformation. 10 août 99, 14 août 99. En 2004, 4 inondations exceptionnelles en un an dans la vallée du Gueulesbeek, dont une le 22 juillet et une autre le 20 octobre. Le 20 juin 2005, le 30 juillet 2005, le 10 septembre 2005, le 11 septembre 2005, le 14 juin 2006, le 24 juin 2006, le 11 septembre 2006, le 8 octobre 2009, le 11 juillet 2010, le 14 juillet 2010, le 17 octobre 2010, le 15 novembre de 2010 et la fleur sur le gâteau pour terminer le 18, le 23 août et le 3 septembre 2011. Ces chiffres sont désespérants et démontrent qu'on n'a plus ici depuis longtemps la maîtrise des eaux de ruissellement et que le mot exceptionnel n'a plus de sens à Uccle. Non seulement la notion de moratoire sur les grands projets de lotissement n'est pas à l'ordre du jour alors que le simple principe de précaution nous obligerait à l'envisager, mais en plus, une urbanisation irresponsable continue à complexifier et à amplifier une situation qui n'est déjà plus sous contrôle, même avec la compétence de vos services, M. Coles, évidemment. L'aspect hydrologique inhérent à ce projet pharaonique, on parlait bien de le lotissement Bourdon et à l'alentour, la taille et l'importance de ces aménagements ne peuvent que soulever une énorme inquiétude pour les habitants et principalement, on vient de vous en parler, ceux de la vallée de Drogenbos, de la chaussée de Drogenbos. Uccle n'est pas un long fleuve tranquille, plaide pour que soit faite une rupture totale avec une urbanisation contre nature responsable à l'origine, aujourd'hui et malheureusement dans le futur de nouvelles catastrophes. Nous attendons de vous plus de créativité et de capacité à changer de méthode quand tout nous fait constater que ce qui est mis en place, ou le sera, et il y a des choses qui sont mises en place et des progrès que j'ai notés, M. Kohls, mais nous savons que ça ne permettra pas de résoudre structurellement les problèmes. Nous ne pouvons plus nous satisfaire du discours habituel que tout a été mis en œuvre, mais qu'on ne peut rien faire contre l'exceptionnel. À Uccle, la seule chose qui doit être exceptionnelle, c'est la priorité absolue qui sera accordée à la protection de ses habitants envers et contre une logique qui, malheureusement, laisse actuellement la place plutôt aux intérêts financiers et au pragmatisme. Nous appelons à la créativité et à l'audace pour rompre avec cette logique. Je vous remercie.
Je ne vais pas vous répondre longuement parce qu'on a déjà échangé nos vues à plusieurs reprises. Je crois sincèrement, d'abord on essaie de faire preuve de créativité, vous l'avez vu. Moi je ne dis pas que parce qu'il y a des phénomènes exceptionnels, et en plus dans le cas de chaussée Drogenbos, ce n'est même pas un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène récurrent, que c'est pour ça qu'il ne faut rien faire. Tout ce qu'on vous a montré ici, c'est justement qu'on veut prendre en compte les phénomènes exceptionnels. Maintenant il y a les réalités. C'est que nous sommes une des deux communes bruxelloises qui avons le plus grand taux de perméabilité de son sol. Savoir, même hors forêt soie. Donc on est une commune extrêmement peu dense, première chose. Deuxièmement, plus de la moitié de notre bâti date d'avant la guerre de 40-45. Ça, c'est une deuxième réalité. Une troisième réalité, c'est que d'abord que la loi ne permet pas de faire des projets de moratoire, contrairement à ce que souvent j'entends. Par contre, ce que nous faisons, déjà depuis pas mal d'années, nous avons été la première commune à Bruxelles à imposer des bassins d'orage individuels lors de chaque nouvelle construction. Encore aujourd'hui, quand nous délivrons des permis, ou quand nous remettons des avis, parce que, parenthèse, en grande partie, la plaine du Bourdon, ce n'est pas nous qui avons délivré les permis, nous imposons un certain nombre de conditions hydrauliques qui sont souvent le double de ce qu'impose le règlement régional de l'urbanisme. Et pourquoi nous imposons tout cela? Parce que nous voulons que tous les nouveaux, pas seulement des bassins d'orage, il y a parfois d'autres conditions, ça dépend des projets, parce que nous voulons que les nouveaux projets, effectivement, n'engendrent pas un afflux supplémentaire par les eaux hein, de pluie dans les eaux. Et donc, en principe, si c'est bien conçu, si les études sont bien conçues et les conditions bien émises, et je vais vous dire, ça ne fait pas l'affaire des promoteurs, et si vous êtes un peu au courant du monde économique et financier, je peux vous dire que je suis tout sauf l'ami des promoteurs et que je leur coûte souvent très cher par toutes les conditions que l'on impose, et notamment les réductions de densité et le fait que l'on veut qu'ils construisent moins, qu'ils laissent plus en pleine terre, etc., etc., mais aussi par les conditions que l'on met en matière hydraulique. Et donc, les nouveaux projets, ceux qui sont déjà faits depuis quelques années, en fait, ont des conditions telles qu'ils n'aggravent pas la situation, même dans certains cas, qui jouent un petit peu de bassin d'orage pour leurs voisins, si je puis m'exprimer ainsi. On a parlé de la plaine du Bourdon. Il y avait un dépôt de dossier qui avait été fait par la région de construction de logements sociaux, logements moyens, pas seulement les gabarits qui étaient importants, rez-de-chaussée plus 8 étages. C'était aussi une quasi-complète imperméabilisation du sol qui était présentée dans la version introduite et déposée en quelques mois. Suite à l'avis défavorable de la commune, et entre-temps sans doute aussi un changement de ministre, toujours est-il que le projet a été profondément revu aujourd'hui. Pas qu'il est parfait, mais en tout cas, il a non seulement incorporé ce que nous avions demandé en matière de bassin d'orage sur le projet, mais il a également incorporé toute une série d'autres mesures, notamment une imperméabilisation plus grande du sol. Et le projet privé à côté a prévu, outre des bassins d'orage, également que le trop-plein va se déverser dans le Cayenne-Bend, que je crois que là, on ne parle plus de Gullays Bay, mais de Cayenne-Bend, vu que nos noms de ruisseaux changent selon les endroits. Donc voilà, donc on est bien conscient de cette réalité, et moi je puis vous dire qu'au niveau du collège, on en parle très régulièrement, et qu'on essaie effectivement peu à peu de faire ce qui peut être fait. Moi, je comprends l'impatience. On est inondé, ça n'est pas du tout amusant. C'est extrêmement désagréable. Et d'un autre côté, le temps de l'action, le temps s'il recevra les permis, tout simplement, est parfois celui qui a été décrit. Et effectivement, qu'il y a là une certaine période avant que les problèmes puissent être résolus, qui est bien réel. Mais je crois qu'il y avait d'autres personnes qui demandaient la parole. Je ne sais pas où est le micro.
Si je peux me permettre de réagir.
Oui, bien sûr, je vous en prie.
J'ai quand même le sentiment que les choses s'aggravent. Il y a de plus en plus d'inondations, il y a plus de rendements. Et ça, la présentation majeure aujourd'hui.
C'est une différence entre M. Brooks et moi. Moi, je considère qu'il y a, mais lui dit, il va vous répondre que ce n'est pas vrai ce que je pense, mais qu'il y a quand même une occurrence des pluies exceptionnelles, plus fort que par le passé, et surtout, ce qu'on connaît actuellement, c'est des pluies sur 10 ou 15 minutes extrêmement fortes qui effectivement engendrent des flux d'eau. Mais M. Brooks, ça fait une...
C'était une pluie banale. Après 23 jours, moi j'ai passé, je n'ai pas été me coucher jusqu'une heure ou deux heures du matin, et j'ai vu que ça se calmait.
Chaussée urbaine, il n'y a aucune urbanisation.
J'ai été couché tranquillement, et le lendemain, inondé.
Oui, mais je vais
dire, une pluie banale.
Donc il n'y a eu aucune dans la vallée de l'UQB, contrairement à la vallée de Saint-Jean. Dans la vallée de l'UQB, il n'y a aucun projet d'urbanisation qui a augmenté l'imperméabilisation du sol ces dernières années. Aucun.
D'où ma
question. Après, avant le débat qui était soulevé par M. Charnier, de savoir, qui a explosé pour la vallée de Saint-Jean, ça n'existe pas pour la vallée de l'Ucubic. Au contraire, c'est même l'inverse. À certains permis qui ont été délivrés de rénovation de bâtiments, on a imposé les démolitions du parti de ce qui existait en intérieur d'îlot de construction. Donc, je dirais que dans la vallée de l'Ucubic, l'explication ne se trouve pas là. Elle se trouve ailleurs, effectivement, mais elle ne se trouve pas dans les nouvelles
constructions. Ce que j'ai essayé de montrer avec la présentation, c'est que votre réseau n'encaisse pas une décennale. Donc, il est clair qu'avec tous les chiffres que l'on entend, c'est clair et net, le réseau n'encaisse pas une décennale. Avec les prises de mesures que l'on a faites dans le réseau, on a montré, là, avec des mesures objectives, que ce soit une pluie d'occurrence 5 ans, c'est pas décennal, ou une pluie d'occurrence 40 ans, là c'est bien plus qu'une décennale, et on a chaussé de Drogenbos des problèmes parce que le réseau ne répond pas à la capacité du décennal qu'on veut nous viser et qu'on veut nous donner au réseau. Donc, quand on regarde les statistiques IRM, bon, ils ont quand même 100 ans ou même plus de recul. Ils édictent finalement des tables tous les 10 ans. Quand on regarde les tables d'il y a 10 ans et maintenant, on n'a pas une explosion des millimètres qui tombent. Vous êtes simplement dans un réseau qui n'est pas pour le moment conçu pour encaisser une décennale. Donc ça veut dire qu'avec une pluie, on l'a vu, de 5 ans, ben, chaussée de Drogenbos, vous avez 2,50 m de niveau d'eau dans les roues. Donc, c'est simple, c'est objectif. Il faut maintenant arriver à donner à votre réseau, à la vallée du Gueulesbeek, la capacité d'encaisser une pluie décennale. Une fois qu'on aura résolu ce problème, c'est-à-dire par un dispositif complet que l'on a évoqué, qui a mis du temps pour l'étude, on a vraiment fait ce que l'on a pu, on va pouvoir encaisser une décennale et vous n'aurez plus, tous les deux ou tous les trois ans, de l'eau qui va faire sauter vos tacs. Sur la rue, ça c'est clair, c'est évident. C'est simplement l'expression que vous ne répondez pas, vous ne pouvez pas encaisser une pluie décennale. Donc, c'est pas parce que vous avez une pluie décennale que vous n'êtes pas inondé tous les ans. Si votre réseau, je caricature, si le réseau débouche dans votre cuisine, ben vous allez avoir, avec la moindre pluie, de l'eau dans votre cuisine. On n'en est pas là, heureusement, mais on doit quand même y travailler pour donner cette capacité que l'on estime raisonnable de d'encaissement décennale.
Je vois deux facteurs aggravants, en fait. Je vois le facteur météo qui, par la force des choses, on le voit, amplifie c'est l'imperméabilisation, voilà, objective, avec les chiffres qu'on a montrés, même si vous dites que ça reste raisonnable et que nous, les deux facteurs-là conjugués, et un réseau qui n'est pas capable actuellement de supporter, De notre point de vue, on ne dit pas que vous faites rien, mais on a l'impression, je m'adresse plutôt à M. Comte, on a l'impression que vous courez derrière pour rattraper une situation que vous n'avez déjà plus en maîtrise. Et donc, je veux redire que je vous remercie pour certains changements d'approche que nous commençons à percevoir dans ce que vous annoncez au niveau des mesures. Et à la fois, notre inquiétude, elle est profonde parce qu'on pense que vous courez derrière une situation que vous ne maîtrisez déjà plus.
Et donc pour répondre aux deux aspects que vous évoquiez, donc il y a effectivement l'imperméabilisation, mais je vous le garantis, c'est l'imperméabilisation réelle que l'on rentre dans nos modèles, et non pas des imperméabilisations 1955. Donc on prend en compte cette évolution d'imperméabilisation qui engendre effectivement plus d'eau dans l'égout. Donc ça, on y répond. Et en ce qui concerne l'aléa météorologique, je vous le dis, entre l'État d'il y a 10 ans et maintenant, il y a peut-être en quantité 10% en plus, mais pas du simple au double. Et donc on prend les dernières valeurs que nous transmet l'IRM. Donc on essaye de répondre économiquement au problème qui est posé pour garantir une fois pour toutes une pérennité décennale par rapport à une pluie, en prenant les derniers facteurs en considération. Oui, bonjour. Oui, mais j'ai beaucoup étudié les problématiques des inondations pour la CQU. J'ai tout un travail en chantier qui, j'espère, paraîtra un jour. Et je voudrais d'abord effectuer une demande. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre cette présentation à disposition du public via le site de la commune, par exemple, que chacun puisse apprécier ces tableaux qui sont très intéressants et très pertinents. Vous avez
pas de souci.
Merci. La première chose. Alors une remarque d'un biais dans vos chiffres. Quand on parle d'imperméabilisation de la commune Duc et augmentation, on oublie la forêt de Soigne qui elle n'a pas bougé. Donc il faut voir la partie urbanisée de la commune par rapport à la partie totale. Et là les chiffres peuvent à ce moment-là, on voit que l'augmentation est beaucoup plus importante. Avant de poser mes questions, je voudrais dire que j'ai habité sur ces Drogenbosch en 1980. À ce moment-là, le grand fabricant de châssis, c'était un terrain vague qui était plus bas, qui se remplissait d'eau aux orages. Derrière la maison que j'habitais coulait un ruisseau, avec un petit sentier qui a été fermé, qui a été revendu au propriétaire du coin. Et derrière ça, nous voyons la rue, l'avenue de Bercel, parce que ce n'était qu'une prairie, donc c'était un espace tampon formidable qui pouvait absorber énormément d'eau. Donc effectivement, dans ce quartier-là, il y a eu une imperméabilisation beaucoup plus importante. Je vais venir à mes questions, j'en aurais bien 50 à poser, mais je vais essayer de m'imiter. La première, c'est, elle part d'un constat. Lorsqu'on a égoutté des avenues, on a vu une inondation plus importante. C'était le cas de l'avenue de la Chênaie, parce qu'en général, on a mis toutes les eaux à l'égout. Est-il possible, on parle d'égoutter tout le sud de la commune maintenant, que vont venir les eaux de pluie de ces habitations? Je vois qu'on a déjà trouvé des solutions de réserve, de bassins d'orage à partir des vieilles conduites, etc. Mais le mieux ne serait-il pas que cette eau reste sur place, là où elle tombe? Que font les gens pour l'instant? Ils infiltrent bien leurs eaux, ils ont des puits perdus. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas demander que ces gens-là ont au sein de leur maison un réseau séparatif qui fasse que n'y ait que les eaux sales qui aillent à l'égout et pas les eaux de pluie? Maintenant, j'ai entendu certains hydrologues dire « Oui, mais il faut qu'il y ait des eaux de pluie dedans aussi pour nettoyer l'égout. » Bon, je crois qu'avec les avaloirs, il y en aura toujours suffisamment qui viendront s'ajouter aux eaux des maisons. Mais ça va intensifier, évidemment, la quantité d'eau qui va s'écouler, alors qu'on pourrait la garder sur place. Et ça, c'est valable dans tous les quartiers. Une autre question, c'est de dire plutôt qu'un bassin d'orage de 1000 mètres cubes, est-ce que 1000 citernes de 1000 litres qui sont disposées partout dans la commune ne seraient pas aussi, je dirais même, plus efficaces? Parce qu'on sait bien qu'une pluie ne tombe pas partout sur la commune, mais elle se répartit à différents endroits. Et la probabilité d'avoir les citernes à eau de pluie qui soient bien localisées par rapport aux fortes pluies est beaucoup plus importante que le bassin d'orage.
dans le bassin de Reims que vous construisez, vous allez construire avenue de Frey, je ne sais pas jusqu'où il a remonté, mais on m'a parlé d'inondations qui ont eu lieu pratiquement en face de la rue Édith Cavell, en face du Deleuze. Est-ce que cet immense bassin de Reims va remonter jusqu'au-delà de cela? Et c'est arrivé pour la première fois lors des inondations du mois d'août, ça n'avait jamais existé avant cela. Tout ça sont des éléments qui, parce que je dirais que vous avez fait une étude, je trouve, très intéressante et vraiment valable, mais qui part d'un principe qu'on ne peut pas retenir l'eau autrement à la source que par vos bassins de Reims. Moi, je voudrais bien qu'on réfléchisse dans l'autre sens aussi, qu'on essaye de garder l'eau à la source là où elle tombe, par tous les procédés possibles et imaginables. C'est une autre démarche. Évidemment, elle sort de votre bureau d'études, puisque là, à ce moment-là, elle concerne plutôt le pouvoir public que Vivacqua, et c'est normal que vous n'y répondiez pas. On ne vous l'a pas demandé non plus, je pense. Donc je vais me limiter à ces questions-là pour l'instant.
Mais si vous me permettez, je vais peut-être juste répondre à ceci par rapport, par exemple, au cas de Fontroy, puisqu'il est assez exemplaire dans la mesure où il y a effectivement toute une campagne d'installation d'égouts qui allait se faire à partir de rien. Et donc, on n'en a pas parlé au moment d'évoquer les différentes vallées, mais à l'initiative de la commune, il y a eu, bien avant les études de dimensionnement et de projet d'installation d'égouts par Hydrobru et Vivacqua, il y a eu une étude sur tout le bassin versant, donc à partir de la ligne de crête Prince d'Orange jusque tout en bas, une étude sur la capacité d'infiltration du sol de tout ce versant-là, du Verrewinkelbeek. Et malheureusement, pour pouvoir justement à la fois infiltrer les eaux de voirie et voir dans quelle mesure on pouvait encourager un réseau séparatif qui serait infiltré dans les sols sur ce versant-là. Et malheureusement, cette étude a mené à une conclusion négative. Sur 2 mètres de profondeur, les résultats d'infiltration étaient vraiment très très peu favorables. D'ailleurs, Hydrobru et Vivacqua ont suivi l'accompagnement de cette étude. Alors, ok, échec, on ne sait pas infiltrer les eaux de ruissellement pour tout ce versant-là. Par contre, on sait que la plupart des habitations qui y sont actuellement infiltrent leurs eaux usées, la plupart après épuration, et que donc il y a des puits perdus qui fonctionnent actuellement. Et donc effectivement, tout ce potentiel d'infiltration qui est là en fonctionnement actuel, on souhaite qu'il soit conservé pour les eaux claires. Et donc, c'est d'ailleurs dans l'idée de pouvoir favoriser ça que la prime à l'infiltration a aussi été incitée à être mise en place le plus rapidement possible pour qu'on puisse inviter les habitants à réfléchir au moment de leur raccordement à l'égout, à vraiment garder toutes leurs eaux de pluie sur leur parcelle et à garder le fonctionnement de leur puits perdu. Donc c'est tout à fait prévu qu'on les encourage par courrier, déjà, qu'ils le sachent, que c'est possible de fonctionner comme ça, que c'est mieux pour tout le monde, etc., même si c'est une volonté assez altruiste, puisqu'elle n'offre aucun avantage direct à l'habitant. Enfin, voilà, tout à fait d'accord. Et alors, voilà, en cerise sur le gâteau, il y a la prime qui va pouvoir encourager, dans ces cas-là, à un simple raccordement particulier, puisque tout le reste est déjà existant. Voilà, je me permettais juste de répondre.
Voilà, c'est pour ça que M. Devoy n'a pas question. Je vois qu'il y a des bras qui se mettent.
Merci beaucoup. Mon nom est Olivier Hotel, je suis habitué aussi de Drogenbossan 71. Je voudrais très rapidement repréciser la problématique de la chaussée de Drogenboss avant de poser deux questions bien précises. Comme vous l'avez souligné, M. Kous, la problématique de la chaussée de Drogenboss est double. Elle est pour partie donc intégrée dans toute la problématique hydrologique exposée par M. Bruns pour ce qui concerne la vallée du Gellexbeek, mais je dirais la région qui se situe au-delà du pont de Kjallvut, donc qui couvre toute la chaussée de Drogenbos, une partie de la chaussée d'Asenberg, comme monsieur l'évoquait, jusqu'à Drogenbos. Il y a une autre problématique qui est extrêmement simple, c'est que s'il s'agit d'une région, une ancienne région marécageuse, d'accord, Hein, il ne faut pas être grand clerc pour savoir que les travaux qui sont faits au Bourdon pour l'instant le prouvent. Vous creusez à 2 mètres, vous êtes dans l'eau, d'accord. Comme certains voisins l'ont souligné, il y a eu effectivement dans ce triangle infernal une urbanisation intense de ces dernières années avec une imperméabilisation des sols qui est proche des 100%. Et ça va continuer, hein, puisqu'il y a plusieurs projets dans le quartier. Je remercie tout à fait M. Grouns pour sa partie, hein, qui est, je dirais, très claire, mais je ferai quand même un commentaire après. Pour ce qui est du reste, et je le précise tout simplement pour que M. Grouns puisse comprendre, et les gens aussi de Vivacois et d'Hydrobrue qui n'ont rien à voir avec cette problématique, c'est que, dans la chaussée de Rodolphe-Golmbos, hein, se trouvent bon nombre de maisons qui datent des années 1890-1900, d'accord ? Maisons qui sont des maisons bel étage, c'est-à-dire avec un entresol qui se situe en grande partie en dessous du niveau de la chaussée, sans fondation. Il n'y a aucun béton, hein, il n'y a pas de béton dans ces maisons. Ils placent des clapets de sécurité de la folie, hein, puisque ces eaux qui sont souterraines doivent bien sortir quelque part. Hein, je préfère, moi, qu'elles sortent et qu'elles inondent ma maison, de voir ma maison s'effondrer à cause des nappes qui est en dessous. Donc je crois qu'il y a, si vous voulez, indépendamment de la problématique globale hydrologique de la chaussée de Drogenbos, qui est déjà en bout de circuit, hein, de la vallée... Ah, écoutez, il y a, c'est très clair, je dirais, mon monsieur qui habitait visiblement au quartier avant moi j'y suis depuis 20 ans, hein, c'est très simple, quand j'ai acheté ma maison, je me suis toujours demandé pourquoi, en fait, le sol était complètement érodé. Hein, dans les 10 premières années où j'étais là, j'ai pas eu une goutte d'eau, je dirais, depuis 10 ans, j'ai été inondé 20 fois, peu importe, d'accord. Et le problème, c'est que il y a bien sûr les puits, maintenant qu'on les qualifie de diluviens, exceptionnels ou pas, peu importe, avec la problématique, je dirais, des égouts, tel que M. Grouns l'a décrit. Hein, il y a un autre phénomène qui est propre, je dirais, à ce triangle infernal, hein, qui est une surimperméabilisation des sols avec la présence historique, je dirais, de nappes phréatiques à des profondeurs de 2 mètres. Hein, quand je dis 2 mètres, c'est 2 mètres, c'est pas 2 mètres 20, c'est pas 2, c'est 2 mètres, d'accord. Alors, comment pénètre l'eau? C'est très simple, l'eau passe à travers les murs. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il n'y a pas de béton, l'eau, voilà. Et quant à moi, je me fais de manière beaucoup plus, large, si je peux dire, d'énormes soucis quant à la stabilité, je dirais tout simplement, de la chaussée de Rogenbos, d'accord. Puisque je dirais, indépendamment, je dirais, de l'insuffisance des coûts, hein, mais je suis convaincu et intimement persuadé, parce qu'il n'y a pas d'autre explication logique, hein, qu'il y a donc en dessous, je dirais, hein, des nappes très très importantes d'eau. Hein, la construction, je dirais, au Bourdon le montre très très bien. Hein. Vous savez comme moi, au Bourdon, ils ont creusé sur 3 mètres. Ils sont tombés dans l'eau, ils ont dû mettre des tuyaux à 20 mètres pour pouvoir construire. Hein, la plaine du Bourdon est théoriquement, hein, inconstruisible. D'accord, hein, tout le monde le sait. Ok. Bon, l'autre question que j'avais maintenant, comme on est dans un pays de zotes, je veux dire par là, comme malheureusement tout est, je dirais, régionalisé. Vous savez aussi que le triangle infernal que je décris est situé et limitrophe avec les communes de Drogenbos, de Bercel et de Lunkebeek, d'accord, qui ne font pas partie de la région bruxelloise. Ma question s'adresse un peu de manière, vous avez, je dirais, présenté, je dirais, le réseau des goûts pour ce qui concerne, je dirais, toute la problématique du Gelletsbeek. La question est la suivante. En quoi est-ce qu'il y a d'abord une interpénétration, je dirais, des réseaux d'égouts, hein, des communes, je dirais, de Bercel, de Drogenbos surtout, et dans une moindre mesure de Lunkebeek, hein, qui sont confrontés exactement, je dirais, à la même topographie, hein, puisque ce sont des vallées encaissées. Il suffit de voir, bon, pour ceux qui connaissent le quartier, ce que prend le délai de Bercel à chaque inondation, hein, il y a un mètre aussi chaque fois. Je dirais donc en quoi est-ce qu'il y a une concertation, enfin en quoi est-ce qu'il y a une implication ou une concertation, je dirais, dans les plans à long terme entre, je dirais, des communes qui malheureusement ne font pas partie, je dirais, de la même région. Hein, c'est là qu'on vit dans un monde de fous. Voilà. Et l'autre remarque ou question que j'avais, j'ai bien compris, M. Bruns, pour être ingénieur, non pas comme ça, je dirais non pas civil, mais commercial, que bon, quand on fait des études, il faut bien sûr partir d'hypothèses, etc., etc. J'ai bien compris tout ça. Il y a une partie, je dirais, qui est, comment dire, qui est statistique, qui est observée. Il faut éviter de sous-dimensionner, surdimensionner des réseaux. Mais il y a quand même une chose qui me, enfin, que je me dis intuitivement. Vous avez parlé effectivement d'autoroutes, hein, d'eau pour, je dirais, la vallée de l'UQMD, ce qui me semble indispensable, effectivement, étant donné la pente, et je dirais, etc. Mais en quoi est-ce que, je dirais, le cadre de la vallée de comment dire, Gerritsbeek, à part la pente, hein, mais les pentes, elles sont des deux côtés, si je peux dire, est différente. Donc, est-ce que ma question est simplement de dire, quitte à faire des travaux et à voir les choses, comme monsieur l'a très bien dit, parce qu'il faut voir ça sur très, très longue période, hein, on ne demande pas non plus des solutions immédiates, on sait bien que les budgets ne sont pas disponibles ou qu'il n'est pas possible de tout faire en même temps, mais pourquoi ne pas faire, je dirais, de ces deux vallées qui sont finalement distantes de quelques centaines de mètres, hein, même pas, hein, je dirais, un seul circuit, je dirais, qui est définitivement, je dirais, desservi par ce que vous appelez une autoroute, je dirais, de l'eau. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que pour connaître un peu, quand même un minimum, pour y avoir travaillé très longtemps, quand on voit la vallée de la Wolue, d'accord, qui est une vallée, ben, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, complètement plate, d'accord, parlez du bas du boulevard de la Wolue, hein, avec un versant seulement urbanisé surtout. D'accord. Je ne vois pas la différence quand vous prenez, je dirais, la chaussée de Saint-Georges, si vous la prenez au début de la chaussée de Waterloo, si vous allez jusqu'à la fin de la chaussée de Provence, vous avez entre 3 et 4 km, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et j'ai du mal à comprendre, si vous voulez, bien que je comprends, je dirais, vos hypothèses, vos paramètres, mais en quoi, je dirais, la situation est moins grave, je dirais, a priori, dans cette vallée, dans cet encaissement, que dans la vallée, par exemple, de la Wolue, d'accord, qui n'est desservie que par un seul versant, hein, et là, vous arrivez à la conclusion que sur pratiquement 2 km ou 1 km et demi, vous avez dû mettre, je dirais, une autoroute. Voilà. Donc, dans mon sens, va simplement, je dirais, je suis quelqu'un d'intuitif, hein, j'essaie de travailler par analogie ou par comparaison. Et je me dis, tiens, est-ce que finalement, pourquoi séparer d'abord le traitement des deux vallées qui ne sont finalement que des distances de quelques centaines de mètres? Pardon, je ne veux pas être trop long, mais voilà.
Et en fait, c'est finalement, pourquoi traiter de manière différenciée? C'est parce qu'on n'a pas le même type de place à disposition. Donc dans la vallée du Gerritsbeek, on a de la place encore, puisque Vieille Rue du Moulin, Place Saint-Jop, Plaine du Bourdon, il y aura encore de la place pour faire un stockage dit classique, un grand bac, on met de l'eau. Ça coûte moins cher, à peu près 20% moins cher que de faire des réseaux souterrains à 15 mètres de profondeur. Et donc, ce qui nous guide dans l'une ou l'autre solution, c'est la place à disposition dans la vallée de l'UQMD. Vous êtes en plus sous des voiries avec le tram, donc on ne sait pas interrompre les lignes de tram, donc on va devoir travailler en souterrain et on va devoir utiliser ces techniques qui sont plus chères et qui sont l'image de l'autoroute à eau. Maintenant, pour en revenir à la vallée de la Wolue, le cas dont j'ai parlé est vraiment qu'un tout petit élément de cette vallée de la Wolue. Il faut savoir que dans la vallée de la Wolue, il y a encore 80 000 mètres cubes de stockage à réaliser. Donc, ce seront des travaux aussi d'envergure et qui doivent trouver leur financement. Mais ce n'est pas avec notre autoroute à eau de la rue de Rise qu'on va résoudre tout le problème de la vallée de la Wolue. Il y aura encore des inondations au Wolue Shopping, il y aura encore des inondations en amont sur Auderghem, sur Aulnay-Saint-Pierre, et contrairement à l'idée reçue, la vallée de la Volue a bien deux versants. Hein. Vous avez aussi bien Waterval-Boisfort tout en amont, Auderghem de l'autre côté, Aulnay-Saint-Pierre, Aulnay-Saint-Lambert, plus en aval en région flamande également de l'eau qui atterrit dans la vallée de la Volue. Maintenant, pour en revenir à votre question plus administrative sur le fait qu'il y a plusieurs régions, etc., il faut être clair. Notre approche est une approche purement technique, ce n'est pas une approche qui s'arrête aux frontières linguistiques, l'eau continue, et donc il est clair qu'on doit en tenir compte, et donc quand on fait une étude, on doit aller acquérir aussi les réseaux d'égouts et la cartographie des réseaux d'égouts limitrophes, si elle s'applique à l'étude concernée. Pour la vallée du Verdun-Colbeck, la SBGE qui doit traverser les deux régions a dû composé avec l'urbanisme de Leuven et l'urbanisme de la ATL en région bruxelloise, avec chacune leurs exigences et chacune leurs remarques. Donc, un problème technique s'affranchit des problèmes linguistiques, s'affranchit des différentes régions. La seule conséquence, c'est qu'effectivement, ça met plus de temps pour atterrir, mais on ne s'arrête pas à la frontière linguistique. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Parce que bon, les choses sont compliquées dans notre pays, on le sait bien, mais heureusement, il y a quand même de temps en temps une partie de bon sens. Et donc, il y a des contacts hein, très clairs. D'abord, il y a un accord de coopération formel donc, qui a été signé entre la région bruxelloise et la région flamande, même si ça a pris du temps hein, pour que tout cela soit conclu, pour notamment le financement du collecteur SU, qui a d'ailleurs été réalisé il y a déjà quelques années jusqu'à la hauteur de la maison communale de Drogenbos. Qui n'a pas été poursuivi ensuite par manque de moyens financiers, notamment au niveau de la région bruxelloise, dont les travaux sont en cours maintenant. Je prendrai un autre exemple, vous avez cité le Deleuze de Versailles. Il y a quelques années, j'ai été sur place, parce qu'on a là un carrefour qui est sur deux régions, quatre communes, Versailles, Drogenbos, Montpellier, qui est très facile à gérer. Et donc, on a une réunion avec les quatre échevins, avec le technicien, avec les deux régions, sur place. On a discuté des problèmes qui se posaient, et bon, ça s'est bien passé. Donc, je veux dire qu'il y a des contacts. Hein. J'ai été personnellement à des réunions à la maison communale de Drogenbos hein, pour certains dossiers qui nous étaient communs au niveau hydrologique. Donc, ces contacts existent. Maintenant, vous avez parlé de la Volue. Je connais un tout petit peu le dossier parce qu'il y a déjà quelques années, ça répondra en partie à une question que posait ou une opinion qu'émettait M. Charlie. Connaissons quand même depuis quelque temps que les problèmes d'inondation, on ne les a pas découverts il y a 6 mois hein, dans la commune. Donc, il y a déjà quelques années qu'on prend des contacts tout azimut pour essayer de résoudre ce problème, non pas pour courir, mais pour résoudre les problèmes des gens. Et ça fait déjà il y a 6-7 ans que nous avons eu énormément de contacts avec la région bruxelloise. J'ai vu la ministre responsable en personne, j'ai vu son cabinet, j'ai vu son administration. Mais on a dû constater après un certain temps qu'il n'y avait pas de réponse. Et vous avez compris que quelque part, il y avait des problèmes plus graves à Bruxelles, aussi gênants soient les problèmes des personnes inondées, et on nous a cité la Volue et d'autres, et les gros investissements qu'on connaît, Flagey et d'autres, ce sont des très gros investissements, autre chose que ce dont on parle ici, ou ce que M. Brousse a exposé. Nous nous sommes alors retournés vers Hydrobru, qui a dû résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord, il a fallu qu'il y ait une fusion des intercommunales, qui a pris un certain temps avant que on puisse agir au niveau des intercommunales. Il a fallu obtenir aussi l'accord pour une certaine augmentation du prix de l'eau, c'est-à-dire que la redevance d'assainissement, qui est une des composantes du prix de l'eau, qui est le feu vert, pour augmenter, pour qu'ils aient suffisamment de moyens propres que pour pouvoir emprunter. Et puis finalement, ils ont eu les moyens, et après, il a fallu mettre les études. Et effectivement, on arrive maintenant à un effort qui est quand même considérable, parce que quand on parle d'environ 80 millions d'euros, je vous donne un chiffre, le budget d'investissement de la commune du, c'est environ 20 millions d'euros par an. Alors je sais bien que si c'était nous qui prendions ça en charge, on aurait aussi sans doute la redevance d'assainissement qui rentrait dans nos caisses. Enfin, c'est pratiquement 4 ans qu'on ne devrait pas faire quoi que ce soit en rue, quoi que ce soit dans les écoles, quoi que ce soit dans les bâtiments communaux, quoi que ce soit où que ce soit. Donc ce n'est pas supportable pour une commune. Donc heureusement qu'on a effectivement l'intercommunal, ses moyens, et en plus elle n'est pas soumise à la TVA contrairement à la commune. Donc, un certain nombre d'avantages qu'il y a. Et donc, les choses sont en route, mais effectivement, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas les seuls, et je lis dans la presse que certains déclarent qu'il n'y aura plus d'inondation dans leur commune. Par charité, je ne vais pas citer les communes ou les bourgmestres en cause. Je verrai, hein. Je crois que malheureusement, que s'il y a grosses pluies qui risquent encore dans un certain temps de souffrir avant que tout soit fait dans leur commune. Donc nous, on a essayé d'être honnêtes ici avec vous dans la présentation. Mais je vois qu'il y a encore des questions qui sont posées.
Oui, Monsieur Kohls. Moi, j'habite avenue latérale, donc entre la rue Copernic et l'avenue de l'Équateur. Et les habitants de cette section et aussi du bas de la rue Copernic ont tous été touchés au mois d'août, les deux fois. Enfin, moi, je suis dans cette maison que depuis quelques années, mais ça s'est déjà produit par le passé. On a eu les égouts qui ont débordé presque 40 cm d'eau usée. Et dans ce que j'ai entendu jusque maintenant, je ne sais pas alors d'où vient le problème. Je veux dire, s'il y a ce bassin de roage qui va s'agrandir, place Saint-Job, nous, ça ne va pas nous aider, puisque nous, on est en amont. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre notre problème? Voilà.
Donc, le coin latéral Copernic,
c'est-à-dire... Oui, entre Copernic et Équateur. Donc, il y a à peu près 8 maisons. Et alors, il y a le bas aussi de la rue Copernic qui a été touché. On vous avait envoyé un courrier au mois d'août pour vous prévenir de ça.
Je ne sais malheureusement pas vous répondre comme ça du tac au tac parce que je ne vois pas exactement où ça se trouve, mais non.
Vous avez la canalisation qui vient d'avenue latérale, qui va en dessous du chemin de fer, oui. Et qui rejoint la place de Saint-Jean.
Qui a été récemment remplacée, non ? Elle s'est effondrée.
Elle est remplacée au mois de mai maintenant, les travaux. Donc on a une canalisation d'égouts importants. Donc les égouts de Vivier-Bois viennent en partie à l'avenue latérale. Et puis toutes ces vallées, Copernic, etc., il y a un collecteur entre la rue latérale et la rue Saint-Jean.
Ah, je ne sais pas. Le Vivier-Bois n'est pas plus bas ?
Peut-être, je trouve, de l'autre côté,
je parle
de l'autre côté du prochain appel. Donc, c'est ce qui descend. Ok. Je sais pas terre l'eau, alors. Plutôt, prend l'avenue latérale, puis vous avez Copernic, Équateur, tout ça, puis dans l'avenue latérale. Alors, vous avez un collecteur entre l'avenue latérale et la chaussée de Saint-Jean, qui est d'ailleurs en partie à l'arrière des commerces de la place de Saint-Jean. Ce collecteur, au mois d'août dernier, a été déchiré, je crois, sur une quarantaine de mètres. C'est d'ailleurs la cause des inondations par l'arrière qu'ont connu les maisons de la place Saint-Jean. Hein.
Mm-hmm. Donc un collecteur, j'ai un peu du mal à suivre parce que pour moi tout ça c'est de l'information nouvelle. Vous dites qu'il y a un collecteur qui a été déchiré,
oui.
Et qui est situé où?
Un collecteur,
c'est un tuyau. Oui, mais qui est situé où alors?
À la latérale, à la rue Prince de Ville et à la place Saint-Jean. Hein.
Okay.
Ce collecteur prend vos eaux.
Oui, mais il est plus en aval celui-là en fait.
Ce collecteur passe en dessous du chemin de fer, reprend les eaux de Copernic, d'Équateur, de latérale, qui sont là, va en dessous du chemin de fer et rejoint le collecteur principal qui est en dessous de la chaussée de Saint-Jean, de la place de Saint-Jean. Ce collecteur a effectivement été déchiré et donc rompu. Et donc, on a pu obtenir de l'hydroduc les réparations, c'est-à-dire la pose d'un nouveau tuyau. Ça a pris un certain temps, c'est vrai, l'accord du propriétaire terrain cause pour qu'on puisse placer. Hein, ce tuyau. Et donc maintenant, au mois de mai, ce nouveau collecteur est placé donc, de la rue latérale à la chaussée de Saint-Job en dessous. Il devrait être tout à fait réparé et décassé. Alors je ne sais pas si c'est la cause d'éventuellement de nos inondations à rue latérale, rue Copernic, rue d'Équateur. Est-ce que le fait que le collecteur est complètement bouché de boue a retenu l'eau et alors qu'il est remonté comme un bouchon hein, pour poser des problèmes par chez vous, ça on ne peut pas examiner. Ce que je peux encore en tout cas vous dire, c'est que sur ce point-là, on va mettre cette année-ci, mai-juin de cette année-ci, donc un nouveau tuyau va être posé par Yvonne-Coup et Vivacqua, parlait plus ou moins à l'ancien, parce que finalement ils ont préféré poser un nouveau que de faire des réparations dans quelque chose qui est tout à fait abîmé. Et donc on avait retrouvé plein de terres où c'était bouché.
Ok, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Comment est-ce que moi je saurais ce que c'est en fait? Qui va l'examiner? Est-ce qu'il est prévu qu'on l'étudie?
Je vais l'examiner donc dans le modèle. Donc j'ai pris note, avenue Copernic, Équateur latéral, avec la commune, on communiquera là-dessus pour voir dans le modèle s'il y a une insuffisance ou si, et la cause est plus que probable, ce tuyau qui était déjà déficient à l'époque était rempli de terre, était rempli d'envasement et les joueurs sont rôles. Maintenant, avec la